Pas gêné sur Europe 1.
16h-18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Enora Malagré, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou. Je suis obligé de réserver la place de la vedette aujourd'hui parce que sa maman est dans la salle, à Christophe Beaugrand. Oh,
bonjour.
Alors, ne dites pas de bêtises, elle n'est pas au courant de tout encore.
Ah, c'est vrai, alors on va vraiment rien pouvoir dire. Alors, votre maman et votre tata dans la salle.
Exactement. Ah, t'es venu avec ton mec.
Il y a Michel et Christine.
C'est voilà. Christine. Et je crois que vous comptez présenter votre maman à Pierre Bénichou.
Oui, bah oui, je comptais essayer de la refourguer parce que maintenant, ça fait 10 ans qu'elle est seule et elle fantasme sur Pierre tous les après-midi en l'écoutant à la radio. Et...
D'abord, elle n'est pas la seule. et ensuite, on ne dit pas ça, tenter de la refourguer en parlant de sa mère.
Oh, c'est le bachelor.
Qu'est-ce qui te restera pour parler de ta femme? Enfin, pardon, oh pardon. Tu m'avais dit qu'on parlait pas de ça.
Je crois, pardon Christophe, mais je crois que vous prenez un vrai risque.
De quoi?
Parce que je connais les goûts de mon Pierrot.
Et ça peut se faire.
Et je pense que votre maman va lui plaire énormément.
Non, ouais, attends. Non, mais là il est pas bourré.
La maman me plaît, mais la tata, dis donc, elle est fantastique.
La jeune femme de 18 ans en mini-jupe, c'est pas la tata, Pierre, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le public. C'est pour ça que tu l'as repéré.
Mais elle a des plus gros seins, la tata, c'est pour ça.
Elle a des plus gros. Regarde, il parle des femmes.
Je veux rien dire
parce qu'il y a sa mère. Mais il parle des femmes, on dirait un
connaisseur.
Quelle angoisse.
Non, mais qu'on va. Jamais j'amènerai Raymond d'ici. Hein.
Ah non! Enfin, attends, elle est sourde.
Ah non, pas du tout moins que vous, alors. Elle ne fait pas répéter les questions, elle.
Ouais. Surtout, tu ne la fais pas venir un jour, il y a Christine Bravo.
La différence avec toi, c'est que c'est pas une pute.
Ça va pas, Pierre.
De qui il parle? De qui tu parles?
Mais ça va pas, mais Pierre.
Attendez, ce qui est drôle, c'est qu'il fait la tête du mec qui dit...
Mais merde, j'ai dit
ça. Mais
qu'est-ce que je viens de dire?
Ça m'est venu comme ça, mais qu'est-ce que je viens de dire?
Tu vois, on sent qu'il s'en veut de l'avoir dit.
Vous avez craqué, Pierre.
Si elle
mais
comment, mais attendez, mais comment je vais faire pour
un truc pareil?
Comment je vais faire pour tenir cette équipe sur France 2?
Mais il est fou.
Non mais
qu'est-ce que non mais qu'est-ce
que
t'as pris
passé. Je sais pas. Pourtant, tu es une des personnes que je respecte le plus.
Ouais, ouais, mais
ça vient de voir. Justement, c'est pour ça.
Mais oui, c'est pour ça.
Le plus en France avec Nabila et avec Jaya. Vous êtes les deux que je respecte le plus.
Bon, écoutez, Pierre, calmez-vous.
T'es gentil, toi. Tu touches pas. D'abord, je me suis aperçu que tu étais toute petite quand tu étais marchée devant moi.
Ah bon? Ah, moi, je me suis aperçu que vous étiez tout gros. Comme ça, l'un dans l'autre.
Vas-y, Pierre. Faut pas la chercher.
Moi, gros.
Vous êtes mignonnet. Vous êtes comme un petit Père Noël.
Un gros macro.
Oh, je sens que ça va être terrible jusqu'à 18h.
Tu peux prendre des auditeurs au téléphone.
Oui, bien sûr.
J'aimerais vous rappeler qu'il y a des auditeurs dans cette émission.
C'est genre interactif.
Oui, oui.
Mon vestiaire est le livre d'or.
Pauline, par exemple, est au téléphone. Bonjour, Pauline.
Bonjour.
En plus, elle a 20 ans aujourd'hui.
À 20 ans, rien n'est impossible, comme le chantait Laurie.
Bon anniversaire, Pauline. Qu'est-ce qu'elle chantait, Laurie?
À 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans. Il y en a eu plusieurs. Il y a aussi Alizée qui a chanté J'ai pas 20 ans, qui était très jolie. J'ai pas l'attitude, même si j'ai l'allure. J'ai pas 20 ans.
J'ai pas 20 ans.
Ça vous va, Pauline?
C'est pas la même chose que sa mère derrière.
Moi, ça me va, mais ça doit être dur pour une maman.
C'est peut-être elle qui lui a appris toutes ces chansons.
Non, elle dit non.
Quoi d'autre, Pauline, à part vos 20 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message?
Je voulais dire bonjour à ma petite Yasmine que j'ai convertie à votre émission en venant vous voir à Paris. Et voilà.
Ah ouais? Et surtout, vous me dites, j'adore Bob du Grand 8.
Oui.
Ah oui.
C'est mon préféré, avec Enora aussi.
Avec Enora. Ah, oui. Bah voyez, ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
C'est le grand écart.
Bon, on vous embrasse alors et on vous souhaite un bon anniversaire. Pauline, il y a quoi de prévu comme petite fête ce soir à la maison?
un resto avec les parents.
Un resto avec les parents.
Avec les amis plus tard.
Bah, vous amuserez une autre fois. Ouais. Simon est au téléphone maintenant. Bonjour Simon.
Relou. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Bénichoux.
Ah, bah, pourquoi vous voulez dire bonjour à M. Pierre Bénichoux particulièrement?
Parce que je ne peux pas dire bonjour à l'équipe quand M. Bénichoux est là.
Ah oui, il n'aime pas.
Ah oui, c'est vrai, ouais, vous avez raison. Et vous avez des copains dans la salle, vous, aujourd'hui?
Ouais, je voulais pas qu'ils s'en sortent indemnes à venir discrètement à l'émission. C'est Georgeon et Vendé qui sont dans le public.
Ils sont où, Georgeon et Vendé?
Ah, ils sont là.
Ah ben, ils sont perchés, là. Ils sont là tous les deux. Ouais. Et
les
alors
deux? Les deux camionneurs.
Ah, ils ont pas l'air de camionneurs.
Ah, ouais, ils ont l'air plutôt de ménestrels.
Ou
hein, ouais.
Oui, ils ont un petit camion. Hein.
Ils sont venus directement du Mans?
À mon avis, ils sont de la remorque. Hein.
Ils ont un tout petit camion pour deux.
Ouais. Ah, moi, c'est vrai que c'est serré. Hein.
Pour moi, ils sont de la Sarthe, hein, vraiment.
Ils sont de la Sarthe, vous pensez?
Non, je pense pas.
Ils sont de la Sarthe, vos amis?
Non, ils sont pas. Il paraît pas qu'ils sont du bruit qui court avec eux.
Ah, du bruit qui court.
Il paraît pas qu'ils sont du bruit qui court, c'est bien.
C'est moi qui l'ai appris, c'est l'expression d'avant, ça. Il est du bruit qui court.
Ah oui, il est du bruit qui court. Je ne connaissais pas.
Bah, c'est bien qu'elle soit d'avant. Hein.
Bah oui, tu préfères ça. Il est de la jaquette qui flotte.
Ah oui, c'est mieux le bruit qui court. Bah, Simon, vous remercie. En tout cas, vous leur avez bien foutu la honte. Ils sont contents.
Mais c'était mon but, je suis ravi.
Eh bien, but atteint. On vous remercie, on vous applaudit. Juliette, maintenant. Bonjour, Juliette.
Oui, bonjour.
Ah, c'est pour Joujou, alors, vous, la question, Juliette, je crois.
Exactement. J'ai vu hier ou avant-hier une pub pour une émission avec Nabila. Vous voulez savoir si Joujou était à l'origine de cette bonne idée?
Évidemment.
Bien entendu, les bonnes idées viennent toujours du même endroit, Juliette.
Ah, c'est vous qui faites la vie de Nabila aussi?
Enfin, non, je ne fais pas sa vie.
Il la finance.
Oui, je fais. Non, je ne la finance pas. Elle vit très bien. Non, c'est l'émission qui commence mardi prochain en prime sur Énergie 12 qui s'appelle Allo Nabila avec toute sa famille.
Ça va être chouette.
Enfin, c'est vachement bien, c'est très réussi.
Et franchement, on a vu un documentaire sur les Sarkozy hier
soir. C'était très bizarre.
Relativement pareil.
On peut bien regarder un documentaire sur Nabila, franchement, Pierre, non?
Oui, non, c'est vrai, c'était pas mal, c'était un peu mièvre, quoi.
Bah, c'était creux, ouais.
Ah, bah, c'était totalement mièvre. C'était ça qui était bien. Il y avait Carla qui arrêtait pas de chanter de petites chansons. À un moment donné, elle joue de la guitare et y a un bruit de grésillement de téléphone portable et elle cherche et dit oh, c'est Nicolas, allô mon amour.
Mais on a l'impression de feuilleter Gala.
On dirait Cantelou, qui l'imite, elle est vraiment comme ça tout le temps et elle chante tout le temps, c'est magique.
Christine, vous avez regardé vous hier le.
Ouais, moi je vous trouve sévère. D'abord, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont regardé hier.
Un gros carton.
Ça a bien marché.
Énorme carton. Bah, j'aimais bien ce couple qui a l'air amoureux. Ça m'étonnerait qu'ils aient joué ça pour les caméras. Et puis en fait, j'ai compris comment il fallait être comme femme, tu vois.
Ah oui?
Oui, elle est douce.
Il était temps.
C'est ça. Mais promis, ne chante pas par contre. Non, vraiment.
Mais elle a.
Quoi que je vais vous dire, vous, franchement, après Ségolène Royal et Madame Trierweiler, je pense qu'avec François Hollande, vous avez vos chances.
Europe 1.
On va se gêner. Qui a le mieux bossé?
Alors, on commence aujourd'hui par Jérémy Michalak, assis à la place du vainqueur d'hier, Jérôme Bonaldi. Et Jérémy, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cette société qui est au cœur d'une polémique, puisque c'est à elle qu'on avait attribué le contrat sur la perception de l'écotaxe.
C'est Ecomove, non?
Ecomove, excellente réponse de Jérémy Michalak.
Difficile, c'est difficile.
Non, je ne ferai pas de tour, j'ai rien foutu.
Christine Bravo, aujourd'hui, sort un film romantique sur les écrans dans toutes les bonnes salles de cinéma. Le film s'appelle « Il était temps ». Il est signé Richard Curtis, un spécialiste de la comédie romantique. Êtes-vous capable de me citer un des trois grands succès précédents?
4 mariages, un enterrement.
Excellente réponse de Christine. Il avait fait aussi Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually. C'est le vrai spécialiste de la comédie romantique, Richard Curtis. Aujourd'hui, on nous a annoncé qu'un nouveau maire avait été élu à New York. Mais êtes-vous capable de me donner le nom du maire précédent, celui qui vient de terminer son troisième mandat?
Son nom m'échappe.
Christophe Beaugrand.
J'allais dire Bloomberg, mais c'est pas.
Oui, Michael Bloomberg. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
J'allais dire, ça ressemble à Bloomberg si c'était ça.
Là, c'est ça. À vous, mon cher Pierre Bénichoux, que s'est-il passé hier? Quelle chimie, même? Je peux poser la question ainsi. Quelle chimie s'est passé hier à la maison de la chimie?
Ça veut dire qu'il s'est passé.
À la maison de la chimie. Une fusion.
Eh oui, oui.
Une fusion entre deux personnages politiques.
Oui.
Et qui ont fait ensemble l'alternative.
Oui.
Et qui s'appelle monsieur. Vous connaissez leur nom.
Allez, on veut les noms.
Arrêtez, pas la peine.
Mais on veut leur nom.
Sans les noms, on peut pas valider. Pas
Pierre.
Il y a monsieur Borloo d'un côté.
Ouais.
Et monsieur Smirnov de l'autre. Pardon. Je ne sais pas, moi, avec l'autre, là. Bah, tu sais bien, l'éternel candidat.
Oh, bah alors.
Bébé,
on a son nom.
Bébé.
Tu il a pas son nom.
Fais l'alphabet, fais l'alphabet. A, B.
Moi je le voyais premier à un brillant avenir aussi, c'est con.
Oh, il va trouver, ça va trouver.
Pierre, je suis obligé de vous éliminer si vous me donnez pas les deux noms.
Il y a Borloo d'un côté.
Ouais, ça commence par un B aussi l'autre.
Et de l'autre, il faut pas prononcer d'une façon, il faut prononcer de l'autre.
Oui, c'est ça. Alors c'est
Vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Ah bah oui.
Tu l'as pas.
Ah bah non, mais il l'a pas, ça lui revient pas. Bayrou enfin, Pierre. Qui va appuyer sur le bouton qui illuminera les Champs-Élysées le 21 novembre prochain?
Facile. Laetitia Casta.
Laetitia Casta, bravo Enora Malagré.
Toujours aussi moche, hein. Les Champs-Élysées, pas Laetitia Casta.
J'ai eu peur, on n'avait pas compris.
Mais oui, c'est pour la troisième année, ils utilisent encore les hula hoop.
4 ans.
Et là, il faut faire des économies, c'est comme ça. Titoff, vous êtes évidemment capable de me dire, puisque vous connaissez le score de Paris Saint-Germain Anderlecht hier, un but partout.
Oui.
Quelle est la nationalité, enfin, dans quel pays joue et dans quelle ville se trouve Anderlecht?
En Belgique.
En Belgique. Bonne réponse.
Tu viens lui demander dans quelle ville se trouve Anderlecht.
Non, dans quel pays?
Dans quelle ville?
Dans quel pays? Là, il a compris, il a répondu. C'est très bien.
Bravo.
Ce week-end au parc des Expositions, c'est le salon MIF. Jérémy Michalak. Mais que veut dire MIF?
MIF. Que des vieilles meufs stress. Pardon.
Le salon MIF.
Oui, c'est le
MIF.
Moi, je sais, moi.
Pour ma mère.
Vas-y, Pierre.
Mother, I like to fuck.
Non, pas du tout. Ça, c'est MILF.
Ça, c'est MILF.
Il
n'y
a pas un salon pour ça. N'en profitez pas pour draguer Madame Beaugrand, enfin.
Ouais, le mec, il envoie des messages, tu sais.
Non, c'était MILF, le salon Made in France.
Bah, bien sûr.
Vous êtes éliminé, Jérémy Michalak.
Bien fait.
Christine, bravo. Pour quelle raison voit-on dans tous les journaux aujourd'hui la photo d'Oscar Isaac? Ouh, Christine, bravo.
Eh ben je cherche.
Ah bah oui, mais cherchez avec du bruit, vous voyez.
Oui, c'est la radio.
Non, je cherche comme je veux, merde. Je cherche au micro maintenant.
Oui, bah oui, oui, parce qu'on fait de la radio, vous voyez.
Oui, bon bah je sais pas.
Et bah, vous êtes éliminé.
C'est bien fait.
Et t'es content, voilà. Parce que il jouit une fois dans la semaine. Quand tu me dis vous êtes éliminé.
Non, surtout qu'elle sait très bien pourquoi il y a Oscar Isaac.
Alors Oscar Isaac, quelqu'un sait autour de la table.
C'est un film.
C'est pour la Gestapo.
Non, non.
C'est pour un film. C'est pour un film.
C'est pour un film, évidemment, le film des frères Cohen qui sort aujourd'hui.
Ah, tiens, alors là, tiens, qu'est-ce que je te disais.
Oh mon Dieu. Quelle horreur.
Magique, Pierre.
On en a peu écouté. Cette émission n'est plus possible.
Il faut avoir ma gueule pour se permettre de telles plaisanteries.
Christophe Beaugrand, vous vous souvenez évidemment de qui est Patrick Buisson, qui est un influent conseiller de l'UMP, particulièrement de Nicolas Sarkozy. Oui. Mais pas seulement, d'ailleurs. Mais Patrick Buisson a une thèse. Que devra faire, selon lui, François Hollande après les européennes?
J'imagine dissoudre l'Assemblée nationale.
Dissoudre l'Assemblée nationale, c'est la thèse de Patrick Buisson qui tient pas vraiment debout d'ailleurs.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui la partagent cette thèse.
Oui, mais enfin, c'est ceux qui rêvent. Parce que on peut pas comparer les deux situations. Quand Chirac et Villepin ont dissous l'Assemblée nationale.
On avait déjà pas compris à l'époque. Hein.
Oui, mais eux, ils l'ont dissous parce qu'ils étaient à peu près sûrs de. Ils croyaient gagner. On dissout pas l'Assemblée quand on est à peu près sûr de perdre. Vous voyez, c'est toute la différence. Pierre Bénichou est éliminé, donc je me tourne vers Enora Malagré.
Oh, ça fait plaisir, oui.
Quel réalisateur signe ce film qui sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma et qui est l'adaptation d'une bande dessinée intitulée Quai d'Orsay, le nom du réalisateur.
Ah.
Un grand réalisateur français, Enora Malagré.
Ah oui, oui, c'est attendez, oh, Tavernier.
Bertrand Tavernier, bonne réponse.
Et c'est le temps du cerveau de la blonde.
Titoff, quel créateur français remplace Marc Jacobs à la tête du numéro 1 mondial du luxe, Louis Vuitton?
Oh là là, ça, dommage qu'il n'y ait pas Stevie. C'est un... Je sais, je n'en ai aucune idée.
Leonardo.
Non.
c'est
Natacha Polony qui fait ce genre de blague.
C'est chez Givenchy.
Alors
je ne sais même pas, moi.
Alors, c'est Nicolas Guesquière.
Oh, ben, tout le monde connaît.
Non, sa famille ne connaît pas son nom.
Vous êtes éliminé.
Nicolas Guesquière, tu vois.
Il me reste donc un duo, et c'est un duel.
C'est
donc
un duel. Fratricide.
Beaugrand. Et Enora Malagré, beaucoup de questions sur le cinéma aujourd'hui, c'est mercredi, alors pouvez-vous me dire qui joue Simone de Beauvoir dans un film qui sort aujourd'hui? Quelle actrice française joue Simone de Beauvoir dans un film qui sort aujourd'hui?
Tâche de rousseur, mon cher.
Je n'ai même pas...
On ne souffle pas.
Ne l'aide pas.
Mais non, je l'aide pas.
Vous êtes éliminé si vous ne savez pas, c'est Sandrine Kiberlin. La gagnante est Enora Malagré.
J'ai l'impression d'avoir eu mon bac.
Attends. C'est vrai.
Ah ouais. C'est la première fois que je gagne un truc. I want to thank my father and my mother. Merci beaucoup.
Et tu vas pas être déçu par les cadeaux.
Ah non. Terre sauvage.
Tu vois.
Le nouveau numéro de Terre sauvage. Le brame du cerf. L'appel de la forêt.
Le brame du cerf, mais c'est tout moi. C'est l'appel de la femelle.
Vous saurez tout.
Parti pour vider le contenu de la poubelle de Monsieur Ruquier.
Regardez Pierre Hermé aussi.
Ah mais génial.
Vous offre aux éditions de la Martinière son dernier livre de recettes.
Qu'est-ce qu'il aurait mieux fait de filer des macarons.
Quoi?
Il aurait mieux fait de filer des macarons.
Non mais jusqu'à quand on va faire des éditions de luxe pour des faiseurs de macarons? Non mais je te jure, Candice, ces macarons sont très bons, je fais de bons desserts. Vous avez remarqué l'obscénité de ce qui se passe en ce moment à la télévision? Quoi? Toutes les heures, on ne peut pas ouvrir la télévision sans qu'il y ait un truc. Vous avez le truc au Maury, vous avez le truc. La France meurt de faim, il paraît, il n'y a pas un rond. Et on a. Oh ben oui, je trouve que le poulet au Maury était pas. Je mets 7 sur 20.
Il a raison, bravo Pierrot.
Et on voit une malheureuse qui éclate en sanglots. Dans sa cuisine toute neuve, payée à crédit et tout, mais c'est horreur.
C'est gourmand.
Dans un instant, pour ajouter au drame, Paul Vermus.
Europe 1.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonjour Paul, avant de vous confier les deux enquêtes du jour, deux reproches. Le premier concerne évidemment Laetitia Casta, que vous ne nous aviez pas donné dans vos pronostics.
Ah bon, non. Laurent, m'excuse Laurent, je suis obligé de vous arrêter. Je vous ai donné une shortlist. Dans la shortlist, il y avait le nom de Laetitia Casta.
Non, vous avez dit, je suis surpris qu'il n'y ait pas Laetitia Casta.
Vous êtes un escroc.
En vérité, je pensais que Laetitia Casta était dans le coup. Quoi.
Bien sûr, c'est un mytho.
Et puis, quand même cité les Champs-Elysées.
Et puis, deuxième problème à propos du tennisman. Vous savez, Argentin Del Potro, qui d'ailleurs a battu notre Français Richard Gasquet là en début de semaine au Masters à Londres.
Il a les jambes très poilues, j'ai remarqué ça dans le Parisien.
Juan Martín Del
Potro. Moi j'aime bien.
Juan Martín Del Potro, vous savez, s'est fait voler son sac Gare du Nord. J'ai émis des doutes sur les conditions du vol du sac parce qu'il continue à nous dire qu'on lui a volé au moment de prendre l'Eurostar, ce qui, à mon avis, est impossible, peut-être au sein de la gare, mais pas au moment de prendre.
Pas là où il y a les portiques.
Ben oui, pas une fois qu'il y a les portiques, c'est pas possible. Ouais. En tout cas, toujours est-il que vous nous avez annoncé, vous avez prétendu, cher Paul, que c'était pas très grave qu'il y ait un rosaire béni par le pape dans son sac, parce que de toute façon, le pape François lui en envoyait un autre.
Ah bon?
Vous l'avez dit, ça.
Il en envoyait un autre, d'après le service de presse du Vatican.
Bah écoutez, en tout cas, il l'a pas reçu, parce que...
Attendez, FedEx, ça met deux jours, quand même.
Là, il continue à se plaindre, il dit qu'il est perturbé, là-bas, à Londres, par le vol de son sac, notamment le précieux chapelet offert par le pape François.
Mais c'est terrible, cet appel qu'il a lancé, c'est bouleversant.
J'aimerais juste, s'il vous plaît, qu'on me rende mon chapelet et les choses qui me sont très chers, qui sont dans le sac.
Ah oui, il y avait autre chose, quoi.
Alors, vous, Laurent, vous qui connaissez tout le monde sportif, vous appelez-le, rassurez-le, il va recevoir le chapelet.
Vous êtes sûr de ça?
Dans un peu de temps. Hein.
On peut avoir comme ça un chapelet béni par le pape aussi facilement?
Oui, par exemple, il suffit de demander. Par exemple, moi, ma copine Caroline Pigozzi, qui est vraiment la journaliste, qui elle veut.
Bah, c'est la maîtresse du pape.
C'est vrai que ça fait 30 ans qu'elle est au Vatican.
Si vous voulez un chapelet...
Elle en a fait des papes au pipe... Des pipes au pipe... Bon, les enquêtes du jour alors, Paul, maintenant. Attention, c'est du sérieux. D'abord, la valise de Marcel Cerdan qui serait vendue aux enchères. C'est ce que nous annonce Le Parisien aujourd'hui chez Drouot. Un bagage en cuir ayant appartenu au boxeur. Pour l'instant, mise à prix 10 000 euros, le champion de boxe français aurait eu cette valise avec lui lors du crash de son vol le 28 octobre 1949, alors qu'il allait retrouver Edith Piaf.
Marcel.
On se souvient que l'avion devait faire une escale aux Açores, qu'il a percuté une montagne, qu'il n'y a eu aucun survivant, sauf évidemment
la valise. C'est pas la valise RTL, ça. Enfin,
j'aimerais savoir si c'est comment on peut être sûr que c'est la valise que Marcel Cerdan avait dans cet avion.
Bah, puisqu'on te le dit.
Ah ouais?
Si tu veux de mieux, on te le dit.
Bah, faut enquêter là, Paul. Hein.
C'est la valise de Marcel.
C'est une enquête, c'est une belle enquête, ça, oui. Puis moi, j'ai bien connu Marcel Cerdan Junior, on va essayer d'en savoir plus.
Et Pierre, puisque manifestement vous êtes bon pour le sport, mon cher Paul, vous allez me dire pourquoi. J'ai lu ça ce week-end et personne n'a repris l'information. Vous allez me dire que c'est pas l'information du siècle, mais moi, c'est quand je lis la presse, je me pose des questions, je suis comme ça. Et j'ai lu qu'il y a les règles du saut à la perche qui allaient changer. Alors, il y a une règle qui est importante. contente parce qu'on
ils vont enlever la perche.
Non.
Ça va être un peu différent.
On se souvient que Renaud Lavillenie avait été privé d'un record d'une barre franchie à 6,07 m parce que on avait considéré qu'elle avait bougé parce qu'elle était, même si elle était pas retombée au sol,
elle avait vibré
puis elle était retombée au bout des taquets, je sais pas comment on appelle ça. Bon, bref, ça ils vont changer, très bien, tant mieux pour les perchistes. Mais désormais, on nous dit aussi que les perchistes vont devoir porter des gants. Ah oui. Ce sera obligatoire. Mais pourquoi ?
Mais pourquoi ? Ouais,
parce que c'est bien de nous donner ce genre d'informations. Tiens, ils vont devoir porter des gants, mais pour quelle raison ?
Puis, pourquoi ils changent la règle du vibratoire là ? Pourquoi ils l'attachent pas ? Pourquoi ils la clouent pas la barre en haut ?
Bah, bien sûr.
Parce que ça fait un peu, ça rappelle des souvenirs.
Ça fait mal.
Ah, pourquoi ? Je pense que si, parce
que si la cloue, elle tomberait pas.
Parfois, elle tombe pas.
Ouais, mais le but, c'est la règle du jeu. C'est de pas faire tomber la barre. Donc s'il la cloue, tout le monde gagne.
Ah oui.
Ouais, enfin, faut quand même passer au-dessus, quoi.
Faut quand même passer au-dessus. Non,
mais ça se joue à 2-3 cm.
Mais c'est sûr que c'est
dangereux. Attendez. On aura plus d'informations là-dessus tout à l'heure.
Vous êtes sûr?
Mais la troisième enquête, là, c'est du lourd. Parce qu'il y a deux enquêteurs en France, faut le dire, sur qui on peut compter. C'est Edwy Plenel et Paul Vermus.
C'est vrai.
Parce que la troisième enquête, là, mon polo, il y a du boulot.
Moi,
je veux tout savoir, évidemment, sur les conditions d'attribution du contrat de l'écotaxe à cette société Ecomove. Parce que il y a quand même un truc, moi, qui m'épate, que j'ai appris dans le Figaro. Bah, ça peut pas, passer inaperçu à mes yeux ce genre de phrase. Le gouvernement actuel aurait découvert, outre que ce contrat a évidemment été particulièrement profitable à cette société italienne. Hein. On pourra revenir sur les détails tout à l'heure et sur les chiffres, mais c'est absolument hallucinant qu'un État ait pu confier à une société privée la possibilité de...
Étrangère, de récolter
un impôt autant d'argent.
Ça, ils prennent 20%.
Mais alors, en plus, le contrat, d'après le Figaro, hein, François-Xavier Bourmeau, aurait été signé le 6 mai 2012, jour de la défaite de Nicolas Sarkozy.
Alors là, genre avant de partir.
Là, je trouve ça encore plus formidable.
Là, truc,
ça, c'est le détail qui tue. Ouais. C'est que ce soit fait le jour où ils étaient sûrs que de toute façon, ce ne serait plus eux qui auraient... Alors là, je veux des infos là-dessus,
alors,
Paul.
Pourquoi une société italienne ? Pourquoi le 6 mai ?
Il n'y a pas que la société italienne, d'ailleurs, hein, qui est en jeu.
C'est
et
pas
en,
les Belges
et en question dans cette affaire. Dans les Suisses, surtout.
Ouais. Puisque, pourquoi les Suisses ?
Parce qu'en fait, faut savoir que cette société Ecomove a été créée, je crois, pour l'occasion, j'espère que je ne
le
me trompe
5
pas,
mai.
Par l'Italien Autostrade, qui a obtenu donc ce marché, manifestement, contre la société Sanef. Et la décision a été prise par le gouvernement sur conseil d'un consultant technique de l'État, une société suisse qui s'appelle RAP. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette société suisse qui s'appelle RAP, qui a été prise comme conseillère et qui a été consultante dans... C'est qui cette société suisse qui a dit qu'il faut prendre cette société italienne ? Voilà. C'est tout ça que je veux savoir, mon polo.
On va essayer d'en savoir plus, mais c'est pas évident comme enquête.
Ah non, mais écoutez, vous pouvez être pour Europe 1, le nouveau Edwy Plenel, Paul.
On va tâcher, mais sans la moustache, hein, je me répète. Hein.
Oui, bah c'est pas la peine, c'était pas drôle une fois, je vois pas pourquoi deux.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Stéphanie, bonjour Stéphane ou Stéphane ?
Stéphane
contre Stéphanie, voilà. C'est presque un...
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe.
Oh bah merci Stéphanie. Oh bah alors,
elle a plus la pêche que Stéphane.
Elle est à Queensbury, il faut dire Stéphanie.
Ah, yes.
C'est aux États-Unis.
Voilà, c'est ça, oui, dans l'État de New York.
Ah, dans l'État de New York. Et il est dans quel État New York en ce moment alors? Ah, mais je vous en prie Stéphanie, je vois qu'elle est bonne cliente. Vous êtes au courant de l'élection du nouveau maire?
Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.
Comment il s'appelle votre nouveau maire?
De Blasio.
Stéphane est à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Salut Stéphane.
Bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stéphane.
Alors, quelle est ta question?
Que faites-vous dans la vie, Stéphane?
Je suis délégué hospitalier.
On sent que vous avez une mission, Stéphane.
En l'occurrence, oui, j'ai une mission, puisque mon but est de commercialiser des produits qui permettent aux personnes qui se font... opérer, de ne pas développer de problèmes post-opératoires.
Très bien, Stéphane.
Okay, mais on va jouer. Hein.
Stéphanie, vous n'avez pas demandé votre métier, vous ?
Moi, je suis agent immobilier et je suis venue vous voir avec mon père dans votre hôtel quand vous étiez à New York et j'ai rencontré Caroline et Stevie.
C'est pas vrai.
Dans la chambre de tous les trois.
Mais je suis déçue de pas avoir vu mon idole, Pierrot.
Stéphanie et Stéphane, voici la question qui va vous emmener à la montagne. La possibilité de partir dans un des hôtels clubs MMV de votre choix. D'ailleurs, vous irez choisir sur le site internet www.mmv.fr. Vous verrez le hammam, le jacuzzi, les clubs enfants avec animation en journée et en soirée. De magnifiques résidences pour passer un temps merveilleux à la montagne. 50 destinations possibles en France. Stéphanie, voici la question. Pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé depuis quelques jours d'un établissement nommé le Santorus à Rio de Janeiro?
Ça, moi, je sais. Hein.
Ça, c'est génial.
Le Santorus à Rio de Janeiro.
Très bel établissement.
Vous avez 10 secondes d'avance, Stéphane et Stéphanie.
Pierre a l'air de connaître l'endroit.
Santorus à Rio.
Avec des femmes offertes.
Ah, Pierre, le Santorus.
Attention, ils le savent.
Tu connais le Santorus, toi, mon
Pierrot. Santorus.
Ils le savent, mes copains.
Il a créé le Santorus.
Il a fait l'inauguration, je crois, Pierre, du Santorus.
On va être obligé de répondre, là, c'est terrible.
C'est un hôtel.
Pas tout à fait.
Bon, allez, il faut y aller. Pour quelle raison?
C'est un endroit où il y a des chambres, effectivement, mais c'est pas un hôtel, c'est une maison de passe dans laquelle a été retrouvé Justin Bieber, qui a consommé local, visiblement, après son concert.
Local, ouais. C'est le bordel d'où est sorti Justin Bieber, paparazzé en plus par des photographes.
Il est sorti avec un drap sur la tête.
Un drap tout taché.
Oh non.
Bonne réponse collective. Désolé, Stéphanie et Stéphane.
C'est un truc, dis-moi.
Pierre pourrait me chanter la trompette.
Oui, compte compte dessus, bois de l'eau, l'agent immobilier.
Il s'en fout, il veut des infos sur le Santorus, Pierre.
Ce qui est génial, c'est qu'en plus, il est reparti avec deux gonzesses. Ah bon, qui ont été prises en photo aussi dans le. Oui, il a passé 2h30 là-bas, puis il est reparti avec deux qu'il a amené dans son hôtel.
Non, pas parce que Justin Bieber, mais j'étais sûr qu'il était comme nous, lui. Pas du tout.
Ah, il est pas de la Sarthe.
Pas possible.
Non, il est pas de la Sarthe.
Bon, il est de la Sarthe de temps en temps.
Il est pas de la Contralée, lui, moi j'étais sûr.
Il est pas du bruit qui court, si tu veux.
Ah, tu connaissais pas l'expression. C'est les trucs de jeunes, ça. Tu connais pas, Nora.
Moi je suis chef de fanfare, mais contre-aller, franchement. Hey,
tu les ressors dans Touche pas à mon poste, Louvain, il va comprendre cette
histoire.
Un truc à l'ancienne. Comme ça.
J'adore.
Chaque fois que je vois un nain, je pense pas à toi. Chaque fois que tu vois un vieux, pense pas à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça.
Malheureusement, c'est le cas.
Non, ce qui est surprenant, c'est surprenant de la part de Justin Bieber, parce que on va pas ouvrir le débat là maintenant, surtout qu'il y en a déjà eu beaucoup depuis quelques jours à propos de la manifestation et de la pétition, surtout, parce qu'il n'y a pas une manif, mais la pétition Touche pas à ma pute, qui a 19 ans. Il soit obligé, alors qu'il a toutes les gonzesses qu'il veut, qu'il attend.
Mais c'est justement pour ça.
Vous n'avez rien compris. C'est que les gens qui vont au bordel, qui vont voir des putes, tout, c'est pas parce qu'ils sont. Il y en a, c'est parce qu'ils sont tordus, qu'ils n'osent pas.
Mais parce qu'ils sont en manque.
Ils veulent pas s'attacher.
Mais c'est un pour mille. Les 999 autres, c'est parce qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien cet échange.
L'idée
entre,
de payer.
Cet échange entre sexe et argent.
De la consommation.
Je veux dire, toute la littérature est faite là-dessus. Toute la psychanalyse est faite là-dessus.
Enfin, là, tu parles surtout pour toi, là.
Vous me l'apprenez. Moi, j'étais persuadé qu'on allait essentiellement aux putes parce qu'on pouvait pas, ou on n'avait pas le temps.
Je pense qu'il y a une passion pour ça.
Non, mais c'est vrai. Ou on n'avait pas
le temps. Non, mais je veux dire.
Justin Bieber, il a pas le temps.
Non, mais lui, il est dans un truc d'expérience, un peu de performance.
C'est une expérience, c'est formidable.
Si, il essaie de se rock'n'roller.
Enfin, il a 600 gamines de son âge.
Mais il en a des gamines de son âge. Il veut baiser les copines de sa mère.
Mais c'est sûr, je suis navré d'avoir
ce petit succès d'estime pour ce genre de phrase, mais ce sont des évidences.
Et Nora, vous alliez dire à propos de Justin.
Je disais que lui, il est dans un mimétisme des gros rappeurs américains. Les gros rappeurs américains, dans leurs textes, ils chantent « Je vais aux putes, je fume du cannabis ». Bon, bah lui, il est en train de faire exactement la même chose. Il va aux putes. Il est en train de fumer du cannabis.
Tu peux refaire le gros rappeur américain, s'il te plaît ?
Je vais aux putes, je fume du cannabis. T'as vu ? Aïe ! Voilà, je suis Renaud.
Non, mais attends, il essaie
de faire ça.
Il faut préciser que le public de Justin Bieber, elles ont 14 ans, elles ont des appareils dentaires, elles sont abjectement laides. Moi, je les ai interviewées au concert pour 50 Minutes Inside, j'ai fait un micro-trottoir. T'as pas du tout envie de te taper le public de Justin Bieber. Elles sont vraiment très vilaines.
Non, mais toi, non, c'est
mais
sûr.
Mais toi, en général, t'as pas envie de te taper. En général, quoi.
Ou alors Justine.
Mais y en a, oui, mon père.
Désolé, Stéphane et Stéphanie, en tout cas, c'est perdu. Vous retenterez votre chance. Il paraît que c'est la première phrase qu'elle a prononcée. C'est bon.
Ah. Nabila.
Non.
C'est ça. C'est la nouvelle émission.
Tu m'as ôté les mots de la bouche.
À la naissance.
Aucun rapport avec Justin Bieber.
Ah oui, à peine né. À peine né. Et c'était il y a 101 ans, hein, sa naissance. Ah. À peine née, elle a fait c'est bon.
Ah, ça, c'est un personnage
c'est une marque.
Le chocolat poulain.
C'est un dessin animé.
C'est un dessin animé. C'est bon. À peine née, elle a dit ça.
Maya l'abeille.
Maya l'abeille. Bonne réponse de TikTok.
Il est fort.
On peut pas lutter contre la culture.
Je vous ai laissé un petit peu chercher, mais je peux pas.
Effectivement, voilà. À peine née, on lui offre un bol de miel. Et qu'est-ce qu'elle fait, Maya?
Elle mange.
C'est bon.
Il y a 101 ans.
Quelle conne.
Elle est vieille.
Mais il y a
101 ans. Je pensais pas qu'elle était si vieille, Maya.
Maya, ouais, elle est vieille. La civilisation Maya, ça date pas d'aujourd'hui, quand même.
Il y a 101 ans, ça paraît.
Ah, bah oui, 101 ans. La petite abeille qui fête. C'est bizarre, quand même, vous avez raison, parce que. Il n'y avait pas de dessin animé.
Non, mais c'était pas une bande dessinée avant, un truc comme ça.
Ah, peut-être,
c'est sûrement des illustres.
C'est japonais, non?
Je me demande comme s'il n'y a pas une erreur. Parce que.
Oui, ça me paraît.
Elle vient d'où, Maya l'abeille?
Appelons Paul Vermise.
C'est japonais.
Il faut meubler pendant que je cherche Christophe.
Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien.
Ah, vache. Oh, c'est
qui suit toujours son chemin.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a la mer et la
danse. Vous pouvez me la faire avec la voix d'Olivier de Kersauzon.
Cette petite abeille porte le nom de Maya. Elle fait pas chier, espèce de nain, là. Je crois que je vais te cogner, rien à foutre. Bon, je vais chier sur un paquebot, là.
Alors, ça y est, on a la réponse. L'ordinateur nous dit que Maya l'abeille.
Alors.
Est née en 1912.
Où ça?
Elle a été écrite par un Allemand, en fait. Ah, bah, dis donc, on n'aurait pas pensé qu'elle était allemande.
C'est un Allemand?
Ah, bah, oui, ça, les petites abeilles, ça pique! Mais comme les casques à pointe!
Je vais même vous donner le titre original de cette aventure. Die Biene, Mara und ihre Abenteuer.
Les aventures de la petite abeille. Die Biene, Mara.
Voilà, publiée en 1912.
Elle s'appelait Mara, donc.
Et elle avait déjà un mec?
Comment
un
ça,
mec.
Elle avait déjà
Willy.
Un mec?
Willy l'abeille.
Winnie l'ourson?
Non, Willy. Ah. Avec des ailes comme les abeilles.
Maya l'abeille, elle avait un mec.
Oui, Willy.
C'était une vraie chaudière, je peux te dire.
Elle adorait ça.
Elle a butiné toute la ruche.
C'est pour ça qu'à la naissance, elle a dit c'est bon.
Elle fait l'amour dardard.
Bravo.
Excellent.
Bravo.
Merci. Merci, Enora.
Et elle se fait butiner.
C'était pas Didier Bourdon qui faisait la voix. Vous connaissez, vous, Maya l'abeille, Pierre Bénichoux?
Bien sûr, je l'ai niqué.
Le pire, c'est
ça recommence alors. Oh, c'est pas possible.
Tu risques rien. Quand on dit vous connaissez, tu dis je l'ai niqué. Toujours, on ne sait jamais.
Allez, plus sérieusement, Christine Bravo sera sûrement ce soir aux Folies Bergères.
Qui donc?
Christine.
Je l'ai niqué.
Elle sera.
Je sais, je t'ai fait payer.
Elle sera ce soir aux Folies Bergères, Christine Bravo, non seulement pour applaudir Louis Chédid, Raphaël, Vincent Delerme, Véronique Sanson, Jennifer, Patrick Bruel, mais tout ça évidemment parce qu'il s'agira ce soir aux Folies Bergères d'un concert de soutien aux otages Didier François et Édouard Elias, qui évidemment sont des otages qui ont travaillé et qui travaillaient et qui, j'espère, vont travailler à nouveau très vite ici à Europe 1. C'est Wendy Bouchard et Nikos qui animeront la soirée en direct, retransmise d'ailleurs en vidéo sur Europe 1.fr, un concert de soutien à Didier François et Édouard Elias.
Oui, Europe 1 m'a demandé d'écrire un texte sur les otages, ceux qui les connaissent. Il se trouve que je connais Didier et qu'il s'appelle Reviens.
Alors ce soir, aux Folies Bergères, concert de soutien donc à Didier François et Édouard Elias. Parmi les artistes invités, il y aura Tété qui chantera peut-être À la faveur de l'automne, une chanson de circonstance. Ah tiens, qui était dans les tribunes du Parc des Princes hier soir?
Leonardo DiCaprio.
Pour assister au match PSG Anderlecht. Leonardo DiCaprio. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Qu'est-ce qu'il foutait là?
Mais je me demande s'il a pas une petite mignonne sous le coude à Paris, parce qu'il est souvent à Paris.
Ah, il avait l'air de se faire chier en tout cas.
Oui, il avait l'air de se faire chier.
C'est pas vous, Christine?
Moi je pense que Christine est sur le dos.
Non, mais moi je me demande un type comme Leonardo DiCaprio, qui a toute la télévision qui vient vers lui, qui peut regarder les plus grandes équipes de baseball du monde.
Pourquoi il va au
Qui peut rester chez lui? Qu'est-ce qu'il va foutre dans un stade? C'est aussi étonnant. Justin Bieber ou les
Bieber,
infantiles.
Bieber.
Bieber,
Bieber ou ça veut dire castor.
On est à Leonardo DiCaprio là.
Non, mais, c'est fini, Justin Bieber.
Biver.
Il l'appelle Justin Bieber.
Justin Bieber, il a dit Justin Bieber. Non.
Justin Bieber, maintenant.
On est dans Rabbi Jacob. Biver, Biver, Biver.
Biver, un taux des fous rires. Mais ma parole, Salomon, vous êtes pute.
Vous avez, Biver, pas Biver.
Vous avez fait rire les cons. Alors maintenant, je vais retrouver mon vrai public. Non, mais sérieusement.
Vous voulez dire que c'est pas plus surprenant que Leonardo?
Oui.
J'essaie de suivre votre cheminement, Pierre.
Pas facile.
C'est pas plus surprenant de voir Leonardo DiCaprio au PSG que Justin Bieber au pute, c'est ça?
Bien sûr.
Bah quand même, moi aussi je pensais qu'il avait peut-être plus de trucs à faire.
Mais c'est un bourrin,
Leonardo.
C'est un bourrin total,
ah bon,
DiCaprio. Mais oui,
il n'a rien à voir, il était pas au pute. Lui,
il passe son temps à boire de la bière, à regarder des matchs à la télé,
ouais,
en mangeant des chips.
Oui, jamais.
C'est un gros bourrin. Ah ouais, et ça c'est un bourrin, ça.
C'est ce que je fais moi aussi, je vous signale. Nous les hétéros.
Il joue à la PlayStation.
Quand même, j'étais content parce qu'il y a Thiago Silva qui est rentré sur le terrain hier.
Ah, et il a regardé la caméra d'une manière.
Il m'a manqué. Hein.
Ça se voyait que c'était pour toi, Laurent.
Il t'a fait un clin d'œil.
Il m'a manqué. Oui. Et j'ai la poupluche. Ça y est. Hein.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Ils m'ont apporté.
Ah, tu l'as reçue?
Ah, ils m'ont apporté la poupluche hier.
C'est quoi la poupluche?
La poupluche.
Elle est là, mais
qu'est-ce que c'est? Il sait pas ce que c'est la poupluche.
Apportez-moi la poupluche de Thiago Silva. Voilà.
On sait pas ce que c'est.
C'est un mélange entre une poupluche.
Les auditeurs qui écoutent l'émission tous les jours.
Oui, bah d'accord.
Contrairement à vous, Christine Bravo.
Non, mais tu. Déjà, je te vois, je flippe, alors je vais pas t'écouter quand je suis
là. Poupluche.
Regardez la poupluche de Thiago Silva. Vous voulez une poupluche, Christophe?
Oh oui.
Alors, est-ce que vous connaissez un joueur de football du Paris Saint-Germain qui s'appelle Cavani?
Oui, bien sûr, oui.
Ah bon, parce que je suis chargé de trouver un maillot Cavani pour l'anniversaire de mon petit-fils.
Oui,
ce
c'est ça aussi, vas-y.
Ah, où
on n'est pas sur eBay, là.
Non, mais ça.
Tu sais, il est sur le bon
coin. Bien
où je l'achète? Tu vas à la boutique.
Où c'est?
Mais il veut qu'on
c'est
lui
sur
offre.
Sur les Champs, tu vois. Non,
sur les Champs-Élysées.
Parce que c'est une émission aussi de pratique. C'est une émission de conseil. Alors, tu vas sur les Champs-Élysées.
Et moi, je vends les bottes que j'ai achetées à New York.
Ouais. Ah non.
Ah bah non, pas celles pour lesquelles vous nous avez tous fait chier pendant 2 heures.
Et surtout que c'est pas elle qui les a payées, je crois.
En plus.
Alors je demande Cavani.
Oui, tu demandes. Tu rentres à la boutique, je voudrais voir Cavani, s'il vous plaît.
Non, je donne le maillot à Cavani.
Ouais.
Il paraît que ça coûte des prix fous.
Bah alors, vous pouvez bien
mais
faire ça.
Mais t'as pas d'auxiliaire de vie pour faire ce genre de truc.
Oh, c'est énorme.
Mais non, mais Pierre, vous pouvez quand même débourser un peu d'argent pour votre petit-fils.
Moi ?
Oui.
Pas un rond pour ma famille.
Allez.
Tout pour les putes.
Et Pierre.
Hey, il est sincère aujourd'hui. Hein.
J'en connais qui va acheter l'album de Justin Bieber. Hein. Oh merde. Tu vas à la Fnac, tu dis je voudrais l'album de Justin Bieber.
C'est pas
et le maillot de Cavani.
Ah, pauvre Pierre, allez, on se téléphone.
Écoutez, je peux vous avoir la poupluche de Cavani si vous voulez, Pierre.
Non, bon, merci.
Il veut un maillot.
On m'a demandé le maillot, c'est tout. Non, parce qu'il faut que je lui donne ce soir. Raphaël, il rigole pas.
Ah, il s'appelle Raphaël, votre petit-fils?
Excusez-lui, il se mouche là.
Ah oui, ça prend du temps.
Tout va bien.
Attends. Ça, il faut 2-3 heures.
Il est sur la narine gauche là. Il va attaquer la droite d'ici une demi-heure. Donc restez avec nous.
Ne regarde pas, Inora.
Il se mouche pas. Il cherche un truc là.
Tu pourrais ne pas t'en remettre.
Ah ouais, il y a du monde là-dedans.
C'est le jeu de Vincennes. C'est pas compliqué.
Tout PSG, mon gars.
Il y a même le remplaçant.
Et le lama du tramway.
Mais c'est bizarre qu'en cherchant dans ton nez, t'as pas trouvé le maillot de Cavani.
Il existait même en plusieurs tailles.
Ah bah ouais,
c'est les kiosques grecs, tu sais, delivery. Tu demandes n'importe quoi, il l'achète. Une raquette.
Tu nous mets une bouteille de rosé, s'il te plaît.
Les kiosques.
T'as pas besoin de sac à main quand t'as c'est pratique.
Il y a un iPhone 5 qui dépasse.
Le silence.
T'as la 4G.
Le silence.
Jamais on s'était moqué de votre nez comme ça, Pierre.
Oh putain, il a une parabole. Une carte de la TNT.
Elle t'a énervé, la pute.
Le mec a des mini tours Eiffel.
Mais non, parce que
c'est magique.
Parce que depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on se moque parce qu'on avait mis du temps pour arriver jusqu'au fond. Pour qu'on fasse le tour.
Non, mais c'est quand même très pratique. Hein.
La caméra explore le terrain.
Quand tu te moquais de mon nez, moi je me moque pas. Ta tête de bouffon, moi.
Ah, hein?
Non, tu es trop dur là.
Là, c'est le mec qui avait rien, tu vois.
Je ne la répartis.
Ouais. Mais oui, t'avais rien.
Non, mais en plus, il met pas toi.
Dis-lui.
L'autre fois, je l'ai invité à manger dans un bon restaurant italien. Juste
il a mangé ce qu'il avait dans le nez.
Non, non, non.
Il en restait. Hein.
Je l'ai invité. Et je l'invite, j'insiste pendant 2 heures. Viens, je t'invite à manger, tout ça, les trucs. Pendant 2 heures et tout. Et hop, je me retourne 30 secondes. Je lui dis au revoir au cuisinier. Boum, il a payé. Il a rien voulu savoir, tout ça. Et là, il fait le mendiant avec pour le maillot de son petit-fils.
Ah, ça veut dire que t'es
de très généreux, mais non.
Mais oui, il faut arrêter de payer tout et n'importe quoi.
Ben oui,
payer pour des choses utiles, enfin.
Je vais me faire refaire le nez.
Voilà.
On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30. Laurent Ruquier.
Christine Bravo, Enora Malagré, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou sont avec vous pendant 2h30 encore. Non, pas 2h30.
6h15, 6h15, on est là jusqu'à 2h du mat.
Je vous ai fait peur là.
2h30 encore.
Non, 1h30, Pierre.
Il faudrait voir à la caisse. Hein.
Ça y est. Alors, j'ai une question intéressante, je crois, à vous poser. C'est Yves Jéglé dans Le Parisien qui nous apprend ce matin que pour répondre au début de ce qui aurait pu être une polémique, elle a eu cette phrase. Faire des choix, c'est donner du sens. À quel polémique, cette personne a-t-elle voulu répondre, clore la polémique en répondant cette phrase « Faire des choix, c'est donner du sens ».
Qu'est-ce qu'il y a comme polémique ?
C'est une femme qui a
prononcé
cette phrase ?
Oui, elle a dit elle...
Ministre ? Une femme ministre.
Ex-ministre ou actuelle ministre ?
Actuelle ministre.
Le Branchu ?
C'est pas Mme Le Branchu, c'est pas Mme Taubira.
Je crois que c'est Mme Filippetti au sujet de l'auteur de SS qu'elle ne veut pas décorer. Non, enfin, pour lequel elle n'a pas envoyé dommage, elle n'a pas fait dommage.
Elle n'a pas fait de communiqué officiel rendant hommage à Gérard De Villiers. Normalement, à chaque disparition de personnalités de ce genre, et particulièrement d'écrivains, c'est vrai que le ministère de la Culture publie un communiqué officiel, on va dire, pour dire hommage à tel écrivain, patati patata. Elle ne l'a pas fait, on l'a interrogé en lui disant « Mais alors pourquoi, pour la première fois depuis longtemps, le ministère de la Culture n'a pas fait de communiqué officiel pour la mort du créateur de SAS ?» Et bien elle a répondu « Faire des choix, c'est donner du sens. On n'est pas obligé de faire un communiqué pour chaque disparition. On doit le faire que quand on est réellement touché. »
Quand
ce
n'est pas des artistes de gauche. Quoi.
Quelqu'un le mérite.
Non. Il y a une différence entre les artistes de gauche et les artistes de droite. On peut être tout ce qu'on veut. Mais il est vrai que Gérard De Villiers, moi, avec qui j'ai débuté, je connais.
Et travaillé à France Dimanche.
Dimanche ensemble. Bon. Et Gérard De Villiers, qui est un formidable reporter, était un fasciste avéré, déclaré, qui déclarait dans des journaux qui voulaient bien le publier. Je préfère un blanc idiot à un noir intelligent. Je veux dire, c'était des choses incroyables, quoi. Et c'était sa marque de fabrique. Et c'est lui l'inventeur de la fameuse phrase qui nous faisait hurler de rire. Mais on était près de la guerre, donc c'est dans les années 55. Et il disait, j'étais réfugié dans les SS. On disait, pourquoi ? Il dit, trop cruel.
Bon, ah, ça vient de lui ?
Ben oui, ça vient de lui. Bon. C'était sans arrêt des plaisanteries là-dessus, qui semblaient de l'humour noir. Non, lui, c'était pas de l'humour noir au troisième degré. C'était sa vie, il était comme ça.
Bon. Donc elle a eu raison ?
Mais oui, et oui, un ministre n'a pas à prendre à se croire obligé de faire des trucs.
Bah, en tout cas, c'est une bonne réponse de notre joujou national, Jérémy Michalak. Bravo, Jérémy. Et là, je vais vous parler d'un skipper qui s'appelle Yann Kermadec. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il va être vraiment à la une de tous les journaux. Et il est en photo partout, Yann Kermadec.
Ce serait pas le personnage de François Cluzet en solitaire.
Dans le film solitaire.
Vous ne vous êtes pas fait piéger. Excellente réponse de Titoff.
Oui, enfin, on était plusieurs sur le coup, j'ai l'impression.
Et oui, c'est dans le film En solitaire que François Cluzet. Non, mais je pensais que vous alliez partir sur la Transat Jacques Vabre, évidemment.
Bah, comme tu nous as dit, il est en photo partout. On a forcément, et comme ça n'a toujours pas démarré, la Transat Jacques Vabre.
Oui, c'est vrai que ça vous explique à chaque fois quand même.
Ça met du temps d'ailleurs. Hein.
Ils sont coincés au Havre.
J'ai encore téléphoné à ma mère. Alors elle m'a dit il fait beau. Alors on m'explique que c'est pas en fait la météo sur le Havre qui les empêche de partir. Ah. C'est la météo jusqu'au. Alors ma mère, c'est vrai qu'elle va pas jusqu'au golfe de Gascogne. Non. Mais toujours est-il en tout cas que voilà, ils sont encore à attendre pour pouvoir partir, les gars de la Transat Jacques Vabre.
Et qu'est-ce qu'ils font ?
François Cluzet, lui, il est parti. Et puis vous avez vu, ils étaient 18 sur le bateau pour tourner le film. Il paraît qu'il ne refera plus jamais ça de sa vie.
Pourquoi ?
Il a dit c'était trop dur.
Trop dur, il a failli tomber à la flotte.
Mais pourquoi ?
Parce qu'il ne portait pas de gilet de sauvetage. Parce que vu qu'il
joue à marin et que les marins n'en portent pas, il ne pouvait pas en porter. Et il tournait en pleine mer.
Il a eu peur.
Il a eu peur.
Et puis tourner en pleine mer.
C'est de tourner en pleine mer.
Oui, oui. On tourne en pleine mer.
Oui, on va aller, d'accord.
Quand on fait un truc sur le bateau,
oui, quand on fait un truc sur la lune, on tourne sur la lune aussi. T'es con ou quoi, toi?
Elle a raison. Elle a raison. Ils auraient pu mettre François Cluzet dans un studio plein de Saint-Denis. Et puis nous, on aurait été avec des seaux d'eau.
Mais pourquoi ils se font chier? Ils auraient pu tourner à l'Aqua Boulevard. Tu vois, c'était pratique.
C'est pour le réalisme du film, Christine.
Oui, d'accord.
Il n'y a rien de plus compliqué que de tourner sur l'eau. Puisque c'est tout le temps en mouvement, ça bouge. Il y a les bateaux autour, les bateaux régis, les bateaux. Et puis ça n'arrête pas, la journée de tournage, elle est longue. Et ça tangue tout le temps. Même les pauses déjeuner, tu es sur l'eau. S'ils sont larges, ils n'ont pas le temps de revenir sur les côtes pour déjeuner tout. Oh. Ça a dû être vraiment, vraiment difficile.
Il y avait de l'eau qui arrivait sur le bateau. Alors tout le monde criait éclusé, éclusé.
Ah, il est bon, il est bon, il est bon.
Allez, bravo.
Hey, tu te demandes pourquoi c'est le patron.
Ben non, mais toujours est-il que ça donne envie d'aller le voir, ce film.
Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour voir François Cluzet souffrir, c'est bien, c'est drôle.
Mais non, mais il y a pas que ça. Il y a un petit clandestin sur le bateau et ça va évidemment peut-être l'empêcher de gagner la course.
Mais
parce
bien
que,
sûr.
Évidemment, une course en solitaire. Remarquez, ils vont
faut le balancer à la flotte.
Ils vont finir par savoir qu'il y avait 17 autres personnes sur le bateau avec lui pour tourner le film.
Ouais. Mais oui, c'est pas
il peut pas la gagner, la course.
Non, puis surtout, on va prendre comme vedette pour faire un truc aussi costaud, un paraplégique. Je trouve ça.
Cet homme est décédé en 2005.
Bon, ben voilà.
Et sa veuve ainsi que son fils se disputent l'héritage. Pour quelle raison?
Parce qu'il a du pognon?
Non.
Non
parce ah, bah, si, oui, là, oui évidemment. Oui.
Elle, c'est parce qu'elle.
Oui. Parce qu'elle n'arrive pas à parler?
Parce qu'elle a épousé son beau-père. Elle a épousé son père. On n'a pas le droit. C'est-à-dire que
Christine veut nous dire quelque chose.
Elle était mariée avec un jeune homme.
Oui.
Il l'a larguée et elle a épousé le père du jeune homme.
On va faire un schéma tous en même temps.
Excellente réponse de Christine. Wow. Bravo, bravo. Exact.
On n'a pas le droit d'épouser le père.
Non, je ne vois pas pourquoi c'est pas autorisé puisque Carla Bruni, par exemple, elle était bien avec le père, elle est partie avec le fils.
Non.
Et pourquoi est-ce qu'on peut pas quitter le fils pour le père?
Tu peux
attention. Préciser qu'il s'agit de la famille Eindhoven et pas Sarkozy parce que là. La plupart de nos auditeurs qui connaissent moins les Eindhoven que les Sarkozy vont penser qu'elle a voulu d'abord épouser le fils Sarkozy et qu'elle est partie avec le père. Non.
J'aurais pu, vous savez. Non, c'était dans la famille Eindhoven. Personne n'a rien trouvé à redire à ça. Et moi,
mais ils ne sont pas mariés.
Il n'y a pas de mariage.
Ils ne sont pas mariés.
Mais
alors,
pas mariés,
alors, c'est tout. C'est totalement faux cul.
Ah, mais c'est comme ça.
C'est la loi.
Le maire, à l'époque, n'aurait pas dû marier cette femme avec son beau-père.
Je sais que ça m'écorche la gueule de dire ça, mais elle a raison. Parce que quel article de loi dit on ne doit pas épouser son frère, on ne doit pas épouser son père,
son cousin.
On ne doit pas épouser le père
le
de son
frère,
mari.
On n'a pas le droit.
Le code civil, en fait, c'est le droit français. Le code civil prohibe le mariage entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Ouais. Attends,
en clair, il est impossible de passer devant le maire si on a des liens de sang, mais aussi des liens administratifs.
Ça, c'est pas normal.
C'est comme ça.
Te marier avec le frère de ton mari, par exemple
avec le frère
de ton ex-mari.
Oui, parce que ça, c'est pas un ascendant.
Avec ton beau-frère.
En revanche, ça veut dire que le grand-père ne peut pas se marier avec ses petits-enfants.
Non.
C'est dégueulasse.
Quel dommage.
Non, ce qui est dégueulasse, c'est qu'un demi-frère, deux enfants adoptés, par exemple, ne peuvent pas se marier. Ouais. Alors qu'ils sont.
Il n'y a pas de lien du sang.
Il n'y a pas de lien de sang.
Ce qu'il faut expliquer, évidemment, c'est que le mari, son beau-père, le monsieur qu'elle a épousé dans un second temps après avoir épousé le fils. C'est lui qui est mort. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste cette femme et donc son premier mari.
Ouais,
et ils se battent l'héritage du père.
Ouais. Et ben oui, parce que l'autre, il dit, il n'y a pas de raison que moi, qui suis le fils, je n'ai pas l'héritage, alors qu'elle, qui n'était que sa bru, mais qui est devenue sa femme ensuite, elle est l'héritage. C'est ça, en fait, l'histoire.
On n'a jamais été aussi proche de Noël. Ils vont passer de bonnes fêtes de Noël.
Et il y a des enfants en dessous ou pas?
Oui.
Ils ont une fille ensemble.
Avec
l'ex-mari.
C'est ce que dit l'avocat, d'ailleurs. L'avocat de l'ex-mari, donc le fils du défunt, dit, si on supprime l'interdit générationnel, c'est un signal qu'on envoie, qu'on dise papa à son grand-père montre que quelque chose ne va pas chez les adultes.
Donc si le monsieur il récupère l'héritage, il va devoir doubler la pension alimentaire qu'il doit à son ex-femme pour payer la pension de son fils.
Je comprends rien.
Oh là là.
Ah mais oui, vous avez raison.
Alors en France,
dites-vous, vous avez bien déjà calculé tout ça, vous.
On va appeler Julien Courbet quand même pour faire un point de situation. Mais
donc ils avaient des enfants et les enfants après vivent avec papy, qui est bon papa à la fois.
Papy est mort. mort.
Oui, bah, enfin, avant
les
qu'il
papis
soit mort.
Ne meurent jamais.
T'imagines la gueule de l'arbre généalogique.
Ben, c'est vrai que c'est pas commun, mais en même temps, voilà, le mec a largué sa femme avec l'enfant.
Ben, il avait raison.
Le beau
ils
papa, le beau papa s'est rapproché et a élevé sa petite fille.
Voilà,
et puis, il est tombé amoureux de la fille, enfin de sa fille, de sa brune.
25 ans, ils ont été ensemble. Faut quand même rappeler. Ah oui. C'est pas une amourette. Ils sont restés 25 ans mariés.
Avec lequel?
Avec le
vieux.
Avec le vieux.
Donc elle n'est pas restée longtemps avec le jeune.
Non. Il l'a largué, je sais pas combien de temps. Moi, j'étais pas.
On l'a beaucoup.
Mais arrêtez. Mais qu'est-ce qu'elle est? C'est vraiment aimable et son orchestre. Elle a...
Quoi?
Mais vous aboyez à chaque fois que vous parlez. Mais pas dire des choses gentiment.
Je suis pas d'accord avec vous, mon cher Laurent. Excusez-moi. Mais vraiment, au nom de tous les collectifs, je peux dire que elle est ravissante et charmante et tout ce qu'elle dit délicieux. Et même quand elle élève la voix, son œil absolument délicieux, dément cela. Car il y a une tristesse, une non-violence dans son regard qui est formidable. Quant au pif, il est plus gros que le mien.
Dans un instant, j'aurai au téléphone Monsieur David Quin. Monsieur David Quin représente une profession et va nous expliquer tout à l'heure pourquoi cette profession est en grève aujourd'hui, alors que c'est la première grève depuis 40 ans pour ce métier.
Ah, les désanusseurs de porc.
Ils sont en grève. Ils sont en grève.
Oui, ils sont.
Ah merde,
mais
c'est
quoi,
dommage.
Les désanusseurs de porc.
Bonne réponse de Enora Malagré.
C'est-à-dire.
C'est vrai.
Non, développez parce que.
Alors, oui, elle a en quelque sorte la bonne réponse parce qu'ils sont en grève, pas seulement eux. Qui est en grève donc?
Les éleveurs de porc.
Non.
Les bouchers.
Non.
Les charcutiers.
Quoi, les charcutiers.
Non.
Les hémorroïdes.
Non. Ah,
les gens qui bossent dans les abattoirs.
Les proctologues.
Les abattoirs.
Les gens
proctologues. Mais comment on appelle ça un proctologue?
Les vétérinaires.
Les vétérinaires. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Les vétérinaires.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bien mis sur la voie quand même.
Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûrement les vétérinaires qui font ce qu'elle dit là.
Oui.
Et
bah, oui.
Et bah, voilà.
Le vétérinaire, et comment que tu vas faire pour te faire soigner? Elle est bonne celle-là.
Ah oui.
Ah ouais, genre t'es une bête quoi.
Ouais. T'as tout compris toi, ton pouce.
Genre elle est comme une cochonne quoi.
Qu'est-ce qu'ils font?
Oh, il est bon.
La grève des vétérinaires pose des problèmes au monde rural, plus encore qu'au monde parisien. Moi j'ai entendu que c'est un vétérinaire mondain. Pas moi, mais une copine. Elle avait son petit chat qui était malade, elle faisait tout un truc. Et je demande à des bons trucs, où est-ce qu'il faut qu'elle aille? On me dit, ben allez-y. Et c'était rue de Passy. Elle va là-bas, elle arrive, je l'avais accompagnée. Il y avait un voiturier qui disait quelque chose. Alors le voiturier, elle entre dans le truc, et là, un truc absolument sublime de luxe et de machin, comme une clinique en Amérique. Elle s'assoit là, et alors il y a des gens qui passaient comme ça, avec leur petite bête comme ça. Et le médecin passait, et il disait, docteur, nous pouvons tout entendre. Est-ce que c'est grave? Bon, attends. Et puis après ça, elle était là, elle disait, mais c'est ridicule ce truc, c'est ça, chose. Et elle entend, le papa et la maman de Texas.
Mais non.
Le papa et la maman de Texas ont demandé à la caisse.
Est-ce que vous faites ça, monsieur Quin?
Non, moi je dis pas ça. Moi, je pense pas que ce soit la majorité de mes confrères qui fassent ça. Comment dire? Un certain environnement dans certains milieux qui peut amener effectivement.
Dans le 16e arrondissement éventuellement, mais pas en Corrèze.
C'est plus rare en Corrèze, je pense. Oui.
Alors, vous êtes vétérinaire en Corrèze. Alors expliquez-moi pourquoi les vétos sont en grève aujourd'hui. Parce que pareil, là, c'est pas très clair dans le petit article que j'ai devant les yeux. J'ai lu dans la presse ce matin. Alors là, j'aimerais que vous m'expliquiez exactement de quoi il s'agit. Le Conseil des ministres devrait présenter le 13 novembre prochain un projet de loi qui devrait priver les vétérinaires de la possibilité de délivrer des médicaments. Alors là, je comprends pas.
En France et dans d'autres pays européens, les vétérinaires ont cette possibilité, de par leur statut à la fois de médecin généraliste, d'urgentiste, de petit hôpital, de vétérinaire à domicile, puisqu'il y en a aussi, d'avoir la possibilité d'administrer les médicaments qu'ils prescrivent et de délivrer également ces médicaments.
Mais des médicaments pour les animaux?
Pour qui il est?
Pour les animaux, bien sûr. Oui.
Mais pourquoi on veut vous enlever la possibilité de donner des médicaments pour les animaux puisque vous êtes vétérinaire?
Eh bien, parce que en fait, si vous voulez, le ministère de la Santé considère que le système humain doit pouvoir se calquer à peu près au système vétérinaire et dans l'objectif de diminuer la consommation d'antibiotiques, ils souhaitent
appliquer la même chose pour les vétérinaires.
On comprend rien à ce que vous nous racontez, monsieur, parce que désolé, mais les vétérinaires, si c'est pas eux qui donnent les médicaments, qui vont les donner ?
Alors, a priori, dans le projet de loi, ce serait réservé aux pharmacies.
Ah bon ?
Que les gens, après la consultation chez le vétérinaire, iraient chercher leurs médicaments en pharmacie.
Ah, attention ! Alors voilà, maintenant c'est plus clair. J'ai bien compris. Vous pourrez continuer à prescrire des médicaments, mais vous ne pourrez plus les vendre et les donner dans votre cabinet de vétérinaire.
Non, c'est ça, voilà.
Ah, ben voilà ce qu'il faut nous dire. Mais c'était pas très clair. Alors, donc, c'est la première fois en 40 ans que les vétérinaires sont en grève, c'est vrai ?
Ben, oui, parce qu'on pense que ce projet de loi est... insultant pour notre profession dans la mesure où il n'y a aucune raison scientifique et aucun argument valable pour retirer la délivrance de ces fameux médicaments.
Oui, on est assez d'accord. On va soutenir votre mouvement aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que le veto puisse pas continuer. Mais c'est pour évidemment lutter contre le déficit.
Honnêtement, tous les indicateurs qui montrent l'utilisation des antibiotiques et des médicaments chez les vétérinaires montre que la profession a parfaitement compris
qu'il fallait faire des économies
pour la santé publique. Ouais.
C'est pas la sécurité sociale qui paye les médicaments des animaux, c'est les clients.
C'est pas une question d'économie.
C'est quelle raison ?
En empêchant les vétérinaires de délivrer les médicaments, ils pensent que ça diminuera la consommation d'antibiotiques. Ouais.
Mais c'est quoi le problème de donner des antibiotiques à son chien, par exemple ?
Et oui, parce qu'en plus,
c'est quoi le souci ? Pourquoi ils veulent qu'on consomme moins d'antibiotiques ? Enfin, que nos animaux
vous nous expliquez pas. Attendez,
les molécules antibiotiques sont les mêmes chez les gens et chez les animaux. Donc, il y a certaines molécules qui doivent être réservées à l'usage humain et les vétérinaires en ont tout à fait conscience et ont déjà mis en place un certain nombre de plans pour limiter la consommation de ces antibiotiques dits critiques.
Mais moi, par exemple, c'est vrai, mon médecin m'a dit hier, je vais te filer un remède de cheval.
C'est ça. Non, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, monsieur, et que j'aimerais que vous m'expliquiez.
Vous pouvez manifester avec nous, alors.
Mais expliquez-moi quelque chose, monsieur. Quel est l'argument, et essayez de le faire simplement et en une ou deux phrases, quel est l'argument du gouvernement pour limiter et vouloir limiter les antibiotiques, puisqu'on a compris que c'était ça le but, la consommation d'antibiotiques par les animaux, puisque de toute façon, effectivement, les antibiotiques pour les animaux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Quel est le but ?
Le but, c'est de préserver des molécules antibiotiques à l'usage humain.
Il y a donc un problème de production d'antibiotiques.
C'est ça.
Oui, non, j'ai compris. Quand tu manges du cheval, quand tu manges de la vache, qui a pris beaucoup d'antibiotiques,
Par contre, madame, permettez-moi de vous dire que ça, c'est faux.
On va essayer de vous défendre en plus.
La seule qui a voulu l'aider.
Elle a pourri. Elle s'est fait
chier. Monsieur, si vous voulez, on peut la faire piquer tout de suite.
Monsieur, dans l'équipe...
Il n'y a aucune étude scientifique qui a réussi à prouver que la transmission... les antibiotiques.
Mais est-ce que c'est ça le but, la question ? La question, est-ce que c'est ça le but ?
Laurent, parfois c'est pas grave de pas comprendre.
C'est une mauvaise connaissance du dossier, peut-être.
D'accord, monsieur. C'est le but du gouvernement, c'est ce qu'a dit Christine, c'est ça ?
Non, parce qu'en fait, le but du gouvernement, c'est de préserver les molécules.
Oui, ça, on a compris, monsieur. Pourquoi ?
Ça veut peut-être dire.
Pourquoi ?
Tu vas nous le dire, bordel !
Il a la rage.
On n'en peut plus.
Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'antibiotiques, il y a une pénurie et si on en donne aux animaux, il n'y en a plus assez.
Non plus.
Mais c'est quoi alors ?
On veut limiter l'utilisation de certaines molécules.
Mais pourquoi ?
Pour les préserver, l'utilisation de certaines molécules dans les cas graves humains. Et ça, la profession l'a très bien compris et a déjà entamé cette baisse de consommation.
Donc c'est parce que les molécules sont rares. C'est Pierre Bénichoux qui a raison alors.
Alors, c'est parce que les molécules, effectivement, la recherche actuellement développe très peu de nouvelles molécules antibiotiques.
C'est pointu comme affaire.
Ouais, c'est quand même pointu.
Eh bien, écoutez, je comprends pourquoi nous sommes peut-être les seuls aujourd'hui à parler de cette grève des vétérinaires.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Christine, bonjour Cédric.
Oui, bonjour.
Ah, c'est
bonjour.
Un prénom que j'adore, Cédric.
Oui. T'es vraiment dégueulasse.
Christine habite Saint-Pantaléon de l'Arche, c'est ça ?
Oula.
Absolument, bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
En Corrèze. Et vous faites quoi dans la vie, Christine ?
Retraitée
de quoi ?
Pourtant, vous avez une voix bien jeune.
Chez un notaire.
Retraitée de chez un notaire. Et alors, vous passez vos journées à faire quoi maintenant ?
Alors, je marche beaucoup. Je fais beaucoup de jeux sur Internet.
Ah. Et vous nous écoutez.
Voilà, et de la cuisine.
Et de la cuisine. Vous avez des chouchous dans l'équipe, Christine ?
Oui, bien sûr.
Pousse à égalité avec un faible pour Monsieur Bénichou et Madame Bravo.
Miguelard.
Putain, je vais sourde aux élections, moi.
Vous aimez les gens qui parlent fort. Hein.
Vous êtes sourde.
Ah oui, oui, oui.
Mais vous avez une famille. Vous avez une famille, madame, ou vous êtes seule?
Ah non, non, absolument, j'ai une famille.
Oh merde. Je peux pas les virer, je viens de passer 8 jours.
Si vous voulez, pas de problème.
Allez, d'accord, Christine. Allons faire connaissance avec Cédric, qui lui est à Puceul.
Ah, ça, c'est déjà du.
Vous êtes donc Pucelais, Cédric. Pucelois, c'est mieux. Encore mieux. Et c'est en Loire-Atlantique, Puceul.
Entre Nantes et Rennes.
Bon, et faites quoi dans la vie, Cédric?
Je suis conducteur de bus.
Ah, alors il va d'où à où votre bus?
Ah, bah moi, je suis spécialisé dans le transport de personnes handicapées à Nantes. C'est Proxitane, un service.
D'accord.
Ah, très bien. Donc sur Nantes, toutes les personnes en fauteuil roulant ou qui ont des validités réduites, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Mobilité réduite, ouais.
Bon, oui, parfait, Cédric. Votre dîner d'hier?
Saucisse au chou.
Quoi donc? Pardon?
Saucisse au chou.
Ah, saucisse au chou.
Saucisse au chou.
Ah, ben dis donc, ils ont dû être bien bon dans le bus.
J'espère que vous avez ouvert les fenêtres.
Hein. Surtout quand tu peux pas t'éventer.
C'est les deux manchots qui sont au premier rang, ils sont mal. Hein.
Oh, c'est pas sympa ça, Cédric.
Franchement,
Cédric et Christine, vous allez jouer pour Valoir. Une semaine de ski pour deux personnes. Piste de tout niveau, snowpark, ski cross. Ski cross.
Oui. Oh, ski cross.
70% du domaine skiable est situé au-dessus de 2000 mètres. Oh. Si vous rendez à Valoir en janvier, vous pourrez assister au concours de sculpture sur glace et sur neige.
Génial.
Mais l'essentiel, évidemment, c'est de gagner l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques, les entrées à la patinoire. Et ce sera le cas. Plus d'infos sur www.valoir.net. Christine, Cédric, vous savez qu'il faut profiter des 10 secondes d'avance que vous avez.
Attends, j'ai calmé mes enfants pendant 10 secondes, là.
Oh, c'est pas ça. Donne-leur une saucisse.
Ouais,
donne-leur la saucisse.
Dans, le crâne.
Dans la bouche, dans la bouche.
Christine, vous êtes prête aussi?
Oui. Absolument, je suis tout oui.
Je vous emmène en Italie, elle est tout oui.
Elle a le voix de Maïté un peu.
Alors. Ils sont marrants, tous les deux. Ah bon. Là-bas, en Italie, à Florence, on a photographié Zonkey. Oh. Zonkey a une particularité grâce à son papa et à sa maman.
Il est né à Florence.
Un bébé Mian, mi-zèbre. Oh. Bonne réponse de Christine.
Bravo, Christine.
Quoi?
Oui.
C'est
comme comment un... ça, un bébé?
Oui,
bébé humain?
Non, c'est un âne avec... il est mi-âne, mi-zèbre. C'est comme un âne avec des chaussettes rayées, quoi.
Sa maman s'appelle Giada, c'est l'ânesse, c'est une ânesse.
Oui.
Et son papa, c'est le zèbre Martin. Elle n'a pas couru assez vite, en fait, l'ânesse. Hein. Le zèbre a réussi à la rattraper. Paf! Et voilà qu'est né.
Et paf! Et voilà.
Mignon.
Et paf le zèbre.
C'est mignon alors.
Alors c'est assez curieux parce que il ressemble à un âne, sauf que il n'a que les jambes du pyjama.
Ouais.
C'est
les chaussettes.
C'est
les chaussettes. Il a les chaussettes zébrées.
C'est mignon.
Vous l'avez vu en photo, Christine?
Oui, sur le net, oui, absolument.
Ça pourrait faire une pub Kindy.
Cédric, vous l'avez pas vu manifestement.
Moi, j'ai vu un mouton à cinq pattes, mais c'est tout quoi.
Aïe. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi aujourd'hui. Le mouton à cinq pattes. Ça, à mon avis, c'est à cause des antibiotiques qu'il y a dans les animaux.
Il y en a trop.
Regarde. C'est tendance. Christine pour un manteau, c'est génial.
Oui, regarde, c'est tendance, c'est tendance.
Pourquoi c'est tendance?
C'est double motif.
C'est les couleurs de l'hiver. Ah, mais si je le chope, je me fais.
Il est totalement. Non, mais...
Je me fais une parka.
Mais cet animal est totalement incohérent.
C'est quand même incroyable de voir cet animal italien.
C'est formidable.
Ah ouais, c'est un zèbre Dolce Gabbana.
C'est génial.
Oh.
Ah,
c'est en tout cas, Christine, elle part à Valoir avec Europe 1. Bravo, Christine. Désolé, Cédric. Bravo. Vous retenterez votre chance. Maersk Salina en a perdu 45. 45 quoi? C'est ma question.
Maersk Salina, c'est une femme?
Non.
Elle est contente ou pas contente d'avoir perdu ses 45 trucs?
Oh, il n'y a personne de content dans cette affaire.
C'est une société?
C'est une société, pas tout à fait, mais on pourrait dire ça.
Ça fabrique quelque chose?
Non, Maersk Salina en a perdu, combien je vous ai dit?
45,
c'est ça même.
Les a perdues dans la rue?
Non, justement, c'est ça le problème.
Il y a une thématique animalière aujourd'hui.
Du tout, c'est pas animalier.
Elle les a perdues chez elle?
Non.
Elle les a perdues dans l'espace?
Non plus.
Elle a perdu des emplois?
Non.
C'est des kilos?
Quoi?
Des kilos, elle a perdu 45 kilos.
C'est bien, comme idée.
Maersk Salina a perdu 45 kilos. Eh bien, non, je suis désolé, votre copine...
En plusieurs jours.
Non, même
c'est
pas.
C'est une entreprise de quelque chose, quand même.
C'est pas une entreprise, mais c'est lié à une entreprise. Mais Maersk Salina, c'est pas une entreprise.
Ça vend quelque chose?
Ça vend pas quelque chose.
Ça représente beaucoup d'argent?
Ah, ça dépend ce qu'il y a dedans.
Hein, comment ça?
Ça vient de quel pays,
On n'a pas la nationalité.
Salina, ça a un rapport avec le sel?
Non. Enfin, maintenant, oui.
Hein ah, c'est dans la mer.
Bravo, Christine.
Wow, elle est forte. Ah,
si, on se comprend à demi-mot, Christine.
Elle est forte. Alors, c'est une société de cargo, de bateaux. C'est
ça,
de conteneurs. C'est des conteneurs.
T'es, ferme ta gueule, mais il
ce sont des conteneurs.
Chut, attendez, les amis, il y a un moment d'amour entre Laurent et
Christine. Il a suffi que je dise du sel maintenant et vous avez dit.
La mer.
C'est comme ça qu'on se comprend, nous deux.
Tous les deux.
C'est chouette. Et c'est grâce à vous, finalement, que Titoff et Jérémy Michalak vont donner la bonne réponse.
Merci, Christine.
C'est des conteneurs, mon amour.
S'ils se reproduisent, j'ai peur que ce soit encore plus dégueulasse que le zèbre avec l'âne.
Alors, donc, effectivement, les 45 containers qui sont tombés en mer depuis le porte-container, puisque c'est le nom du porte-container, Maersk Salina. Bonne réponse de Christine Bravo. On sait pas ce qu'il y a dedans, parce que sur un porte-conteneur peut y avoir parfois jusqu'à 18 000 conteneurs. Vous rendez compte un peu. Et ils transportent pas tous la même chose.
Et en plus, quand t'es en bateau, tu fais tomber tes clés ou mettons un masque ou un tuba ou quoi, tu veux vite le rattraper là quand c'est les conteneurs. Tu vois un peu quoi, t'as le geste de, tu vois.
Tu peux développer, tu peux parce que tu perds souvent un conteneur, toi. Donc
et vous demandez justement, c'est pour ça, c'est ce que je dis, tu vois. Le matelot.
Et vous vous demandez pourquoi je paye au restaurant quand
le mec, il lâche rien.
Mais justement, non, vous devriez pas payer, vous devriez le laisser payer. Si en plus vous payez, c'est quand même bizarre. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, à propos des porte-conteneurs, c'est que dans les années 80, certains porte-conteneurs avaient 2000 conteneurs sur eux. Aujourd'hui, ça devient plus possible. 18 000 conteneurs. Vous vous rendez compte?
C'est énorme.
C'est trop. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se cassent la gueule dans l'eau, évidemment, des
parce qu'ils sont mal attachés?
Bah, pas très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met les produits, on va dire, toxiques, les produits inflammables, on les met plutôt au centre du bateau et pas sur le bord. Parce que c'est ceux, évidemment, les conteneurs qui sont sur le bord qui risquent
donc
de tomber.
Donc c'est les plus dégueulasses qu'on ne fait pas tomber.
Les produits inflammables, quand ça tombe dans l'eau, en général, il n'y a pas trop de risques.
Oui, mais...
Essaye d'allumer en mettant un briquet ou une clope sous l'eau. Tu vois, quand tu fais la plongée sous-marine, tu veux fumer une clope. En général, c'est assez compliqué. Quoi. C'est plus autant dur. Tu fais du deltaplane, bon, c'est compliqué, mais tu peux y arriver. Autant la plongée, c'est pas évident de fumer sous l'eau.
Non, mais ils le disent, nous plaçons les produits dangereux sur les bords extérieurs de nos navires.
Ah, tout l'inverse de ce que tu viens de dire.
Alors, c'est le milieu qui tombe à l'eau.
Et c'est quoi les bords extérieurs?
Je comprends pas.
Mais non, parce que sinon, c'est le bateau qui coule, là.
Peut-être que pour nous expliquer. Christine, peut-être pour nous expliquer, on pourrait appeler le
vétérinaire. C'est le milieu qui coule.
Un mec explique bien.
Ouais, un mec explique bien, on pourrait l'appeler.
Moi, je vous lis ce qui est écrit. C'est vrai que c'est pas très clair.
Oui, c'est pas clair.
Nous ne plaçons jamais des piles de produits. Ah non, nous ne c'est ce que je vous disais. Ah. Nous ne plaçons jamais des piles de produits dangereux sur les bords extérieurs des navires. Donc, il les place sur les bords. Enfin, pas sur les bords, mais il les place à l'intérieur.
C'est le contraire du vieux paysan qui dit ouais. Il y a le bouc et le corbon, c'est le milieu qui plie. Non, c'est pas...
Qu'est-ce qu'il a dit, papiche?
Viagra vient de vous donner sa dernière publicité.
Ah ouais, il y a le bouc et le corbon, c'est le milieu qui plie.
Là, il y avait des jouets, du mobilier, du papier,
évidemment,
dans les conteneurs. Mais évidemment, il y a toutes sortes de choses très, très différentes. Il peut y avoir dans certains conteneurs des produits dangereux. Ce qui peut être dangereux surtout, nous dit l'association Robin des Bois, qui est une association écolo, c'est
collisions.
Pour c'est pour les navigateurs là qui vont partir s'ils partent un jour la Transat Jacques Vabre.
C'est sur la route?
Ah bah c'est sur la route. C'est-à-dire que d'un seul coup vous pouvez tomber sur un conteneur. Paf.
Mais il flotte.
Le conteneur?
Oui.
Ça dépend.
Ça dépend ce qu'il y a dedans.
S'il y a du liège,
s'il y a
du liège dedans,
s'il y a des ballons, il reste au-dessus.
S'il y a des bouées à l'intérieur, il flotte.
Vous avez raison.
S'il y a des enclumes, il coule.
Moi je pensais que ça coulait un conteneur aussi.
Oh bah ça va.
Mais si c'est pas profond.
La mer.
Ouais, la mer, c'est profond. Généralement. L'océan, normalement, t'as papier au milieu.
Si, lui.
Il y a un petit banc de sable de temps en temps.
Moi, j'en sais rien. Je suis pas chauffeur de porte-conteneur.
Enfin, reconnais que tu peux. Comment tu rentrerais en collision avec un truc qui coule?
Si tu es un sous-marin.
Ou alors... Si tu es un sous-marin, oui.
Peut-être que ça met du temps à couler. Je sais pas, moi.
Peut-être, ouais.
Oh, c'est pas comme mon nez. Hein. Elle est folle.
Très
Sylvie Vartan sur Europe 1.
Ah oui. Ah, Sylvie.
Vous avez tourné avec elle, Sylvie Pierre.
Oui, c'était ta meuf.
Je l'ai tournée, mais je ne l'ai pas.
I like it, I love it. C'est ce qu'elle dit maintenant à propos de Pierre Bénichou. Sylvie.
Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus.
Commençons par les choses faciles, Paul Vermus. Première enquête, la valise de Marcel Cerdan.
Bon, alors déjà, je peux vous assurer, noir sur blanc, que cette valise en carton est la véritable valise
de Linda de Souza.
Oui, non, c'est même pas drôle, franchement.
C'était juste pour t'embêter.
Non, mais c'est vrai que les valises en carton, ça se retrouve facilement au fond de la mer, ça bouge pas.
Non, c'est en montagne, je crois. C'est en montagne.
Ah, avec la neige.
D'abord, cette valise a été retrouvée en montagne, dans les débris de l'avion qui a fait un crash en 1949. Cette valise, Laurent, elle avait été achetée dans une brocante aux puces par les deux tourtereaux. Ah. Ils ont été attendris de trouver sur cette valise en carton, lorsqu'ils l'ont vu, c'est une valise de case, hein, les lettres E, comme Edith, et puis il y avait aussi la lettre C, comme Cerdan. Ils ont trouvé que c'était un présage, un bon signe. Tu parles d'un bon signe, il est mort d'un crash d'avion. Alors ils sont imaginés, Edith s'est imaginé qu'elle s'appelait déjà Edith Cerdan. C'est la première, ce qui est bien la preuve bien que sûr. C'est la valise de Cerdan.
Qui vous a donné toutes ces informations?
Écoutez, le commissaire priseur.
Ah oui, parce que voilà. Dans l'équipe, ils disent tout le contraire.
Ah non, attendez, ils ne peuvent pas dire le contraire.
Donc, et je ne vous avais pas donné cet article parce que je voulais vérifier si vous enquiétez bien. Oui. J'ai dans le journal L'Équipe aujourd'hui, ce titre, une vente en carton, point d'interrogation.
Alors moi, je vous dis...
Avec ce titre, on peut douter fortement de l'authenticité de cette valise.
Ah, écoutez, faites-vous confiance au journal L'Équipe ou à Paul Vermus?
Je fais confiance au journal L'Équipe qui semble avoir très bien enquêté là-dessus.
Attendez, je continue mes preuves, hein, parce que moi je n'accepte pas ce genre de critique acerbe, injuste, vraiment. Sur cette valise, il y a une étiquette de voyage de la compagnie Cunard, White Star.
Ouais. C'est dur à faire, ça.
C'est la compagnie qu'a pris Marcel Cerdan pour aller aux États-Unis en première classe en 1946.
Effectivement, l'étiquette d'une compagnie maritime sur la valise qui mentionne le nom de son propriétaire Marcel Cerdan et une date le 6 juin 46, début de la traversée, Le Havre, New York. Or, ce même jour, selon les archives de L'Équipe, Marcel Cerdan est en France. Il est arrivé la veille d'Alger et le 7 juin, il s'entraîne à la salle Le Pesant où il discute avec le boxeur italien Saverio Turiello.
Ah oui.
Bon, enfin, en tous les cas, moi, je vous dis
Non.
J'ai la meilleure des preuves, Vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
Allez-y.
La maison de vente Artemisia, qui est vraiment la deuxième maison de vente au monde, elle se permet pas, lorsqu'elle organise une vente pour le 50e anniversaire de la disparition de Piaf, de vendre des objets faux. C'est comme si vous vendiez un faux Picasso, un faux Braque ou un faux...
Je vous lis l'article de Johan...
Je m'en moque de l'article de
l'Équipe. Paul, l'article de Johan Aubois dans L'Équipe. Une histoire rocambolesque, trop belle pour être vraie, selon Marcel Cerdan. Fils, cette valise, je n'en ai jamais entendu parler. D'où provient-elle? Qui la leur a donnée? Qu'on arrête de prendre les gens pour des idiots? À ces questions, le commissaire-priseur emberlificote, sans se convaincre lui-même, nous dit le journaliste. Manifestement, il vous a convaincu, vous. Cette valise a été retrouvée par un commissaire-priseur qui n'est pas moi, dit-il, dans la cave de la veuve d'un grand collectionneur de l'Empire et de Napoléon. Ce monsieur ne collectionne pas les objets sportifs avec lesquels il faut être très prudent. Un ballon de Pelé, par exemple, qui peut apporter la preuve que Pelé a tapé dedans? Dans le cas qui nous intéresse, la veuve a expliqué que son mari lui aurait dit qu'il avait acheté la valise à une personne qui l'aurait récupérée sur le lieu du crash. D'accord. C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.
Vous m'apportez pas plus de preuves que celles que je vous ai données.
Non mais avouez que vous êtes peut-être un peu embirlificoté par le commissaire priseur, Polo.
Ah oui, peut-être.
Alors on va passer à une autre enquête, mon cher Paul, que je vous ai confiée, je ne sais plus laquelle c'était.
C'était les perchistes.
Alors ça c'est très rapide. Hein. Pourquoi on va faire porter des gants aux perchistes?
Voilà, dans cette enquête, il faut être très précis. Selon le livret publié par la Fédération internationale d'athlétisme, les perchistes peuvent également porter des gants durant les concours, comme ils peuvent aussi, et c'est tout à fait nouveau, placer davantage de protection dans l'aire de réception. Vous savez, quand ils retombent lourdement à 6 mètres de
hauteur. Ils peuvent mettre des
coussins. Donc, le port du gant n'est pas obligatoire. Si vous regardez les photos, par exemple, de Renaud Lavillény, de Romain Ménil, du champion du monde allemand Raphaël Holzdeppe, aucun ne porte des gants, parce que bon, c'est pas
très pratique. Non, c'est pas ça que je vous ai dit, Paul, une fois de plus. Vous n'avez pas bien compris ma demande et mon enquête. J'ai dit, les perchistes devront désormais porter des gants.
Pourquoi?
Maintenant, ils n'en portaient pas forcément.
Eh bien, non. Vous vous trompez totalement, Laurent.
Et pourquoi, on me demande?
Ils passent
également porter des gants. Écoutez-moi précisément. Ce n'est pas obligatoire.
C'est pas ce qu'il y a écrit dans l'article. La Fédération internationale a édicté des nouvelles règles devant s'appliquer au saut à la perche. Ces règles devraient permettre à Renaud Lavillenie de ne plus revivre la mésaventure du dernier championnat d'Europe en salle. Par exemple, à Göteborg, en Suède, Lavillenie s'était vu refuser une barre franchie à 6,07 m parce que la tige avait rebondi sur des taquets qui désormais seront lisses, donc qui ne permettront pas à la barre de s'accrocher. Par ailleurs, moi je vous lis l'article, par ailleurs, virgule, les perchistes devront désormais porter des gants.
Eh bien, alors Laurent, vous, ce que vous êtes en train de dire est erroné. Ils pourront, s'ils le souhaitent, porter des gants, ce qui est très différent. Et alors, à la question, pourquoi devront-ils porter des gants ? Parce qu'avant, il y avait les perches étaient en métal, puis ensuite, elles étaient en fibre de verre. Aujourd'hui, elles sont en carbone. Et lorsqu'on a une perche en carbone, en cas de pluie, ça peut glisser sur la perche, c'est la première chose. Ça peut chauffer la paume de la main, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, ça éviterait les ampoules.
Donc le journaliste, du Parisien, en fait, il aurait dû écrire « Les perchistes auront droit de porter des gants s'ils en ont envie ».
Voilà,
ce qui n'a rien à voir.
Donc ça change rien.
Exactement, ça n'a rien à voir. Vous voyez que la presse dit souvent n'importe quoi.
Et c'était déjà le cas.
Je sais de quoi je parle. Longtemps, j'ai travaillé dans la presse.
Donc en fait, ils ont fait un papier.
Vous avez même eu une très grande formation, Paul.
Mais oui, je suis un spécialiste dans la.
Alors là, attention, parce que là, vous ne pouvez plus dire n'importe quoi, Polo. Là, c'est l'enquête du jour. Vous êtes le nouveau Edwige Plenel. C'est l'histoire d'EcoMove. Ce contrat confié donc à une société privé par le gouvernement précédent, évidemment, le gouvernement Fillon. Et on a même vu déjà que Jean-François Copé essayait de se protéger de cette affaire en disant « De toute façon, c'est pas bien d'avoir fait ça. C'est Mme Nathalie Kosciusko-Morizet qui a signé. Elle dit « Oui, mais moi j'ai signé, mais on m'a juste demandé de signer, c'est pas moi qui ai décidé. » Bon, bref, tout le monde est en train de se renvoyer la patate chaude. Qui et pourquoi on a confié à cette société italienne EcoMove le fait de récolter l'impôt de l'écotaxe pour un prix quand même incroyable, c'est-à-dire 20% de la recette des impôts serait revenue à ce groupe italien EcoMove.
Bon, alors, si vous voulez, on revient quand même aux origines. La loi, elle est votée à l'unanimité par l'Assemblée droite et gauche en 2009.
Ouais.
L'appel d'offres est conclu en 2011 et signé par le Premier ministre, NKM, Borloo et Valérie Pécresse, qui est au budget. Et le décret d'application, il faut être très précis, il est signé par Thierry Mariani, que j'ai eu à l'instant au téléphone. Il est signé, comme vous l'avez dit, le 6 mai 2012, le jour du contour de l'élection.
Pourquoi,
il pouvait être aussi bien signé le 5 mai, le 3 mai que le 14 mai. Hollande était en fonction, n'est entré en fonction que le 15 mai. Et je vous signale, tout le monde était d'accord pour cette loi. Il n'y avait aucune raison de ne pas la mettre en application.
Ah non. Paul, vous n'allez pas m'embrouiller. Je suis pas Paul Vermus, moi. On peut tous être d'accord pour l'écotaxe, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord pour que l'impôt de l'écotaxe soit récolté par une entreprise privée italienne. C'est deux choses différentes.
Là-dessus.
Mais m'embrouillez pas.
Non, mais j'ai pas du tout l'intention de vous embrouiller. Alors, Autostrade, c'est une entreprise italienne qui construit gère toutes les autoroutes de la péninsule.
Les autoroutes, comme son nom l'indique.
Elle est numéro un dans son secteur en Europe. On est d'accord, Laurent ?
D'accord.
Alors, cette société, Autostrade per Italia, doit sa réputation européenne à ce qu'elle a déjà fait en Autriche, c'est-à-dire installer le premier système de collecte d'écotaxe. Elle l'a fait en Autriche, okay. Et ça fonctionne.
Oui.
Il y a donc eu un appel d'offres en France. Normalement, l'appel d'offres, c'est celui qui propose les meilleurs moyens au meilleur prix.
Oui, c'est un appel d'offres.
Et avec le plus d'expérience. Hein. D'accord. Vous êtes d'accord, Laurent ?
Oui, il y a juste une chose sur laquelle je voulais revenir. Vous me dites que ce qui a été signé le 6 mai 2012, jour de la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est le contrat, le contrat d'application, enfin le décret d'application de la loi. C'est pas ce qui est écrit dans le Figaro. Dans le Figaro, ce qui est écrit, c'est le contrat signé avec EcoMove. C'est deux choses différentes.
Si vous n'allez pas mettre ma parole en doute, j'ai eu Thierry Mariani, je l'ai eu au téléphone. C'est lui qui a signé le décret d'application. Alors bon, tout le monde
est-ce que je peux te poser une question, amicalement ? Est-ce que tu crois que Thierry Mariani va te répondre ? On s'est tous goinfrés dans cette affaire-là.
Comme des cochons.
Donc c'est tous goinfrés dans cette affaire-là. Ouais. On s'est dit qu'à partir du 7, on risquait de se faire non seulement perdre l'affaire, mais en plus de ça être désavoué. Donc rapido, envoyons deux motards pour signer le truc.
Et on a tout planqué.
Est-ce qu'il peut te dire ça ? Comme il ne peut pas te dire ça, je ne dis pas que c'est la réalité. Comme il ne peut pas te dire ça, prends sa parole avec un peu plus de recul.
Pour tout annuler, l'État devrait verser une indemnité de 800 millions d'euros à cette société. Dans ce cas, il serait normal que les investissements de départ soient remboursés, c'est-à-dire que selon Ecomove, il s'élève à 800 millions, mais selon le gouvernement à 650 millions, ce qui laisserait 150 millions de bonus au consortium. Tout ça, quand même, ça fait des gros...
D'autant qu'ils sont en train de cramer.
Ça fait beaucoup d'argent.
Mais on va, on va payer.
Vous me demandiez aussi, Laurent, pourquoi il y a une entreprise suisse.
Oui, le consultant suisse.
La société RAP. Bah, la société RAP, elle est en Suisse, elle est très célèbre. C'est elle qui est chargée de tous les décomptes individuels. Vous savez, des frais de chauffage et d'eau chaude. Et RAP a une longueur d'avance. Elle a conçu un logiciel de décompte unique au monde pour récupérer les taxes. C'est pour ça qu'on a pris le conseiller technique de RAP avec Autostrade pour mettre au point cette affaire.
Paul.
Oui, Laurent.
De toute façon, vous avez pris des risques aujourd'hui.
Bah, de très gros risques.
Et
très,
je gros. Vois, je vois même les gouttes de sueur perler le long de votre front.
Il va perdre son HLM, Paul.
Non, mais je vais
Paul, une petite lingette et il n'y paraîtra plus dans un instant. C'est l'invité d'honneur.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bonsoir, invité d'honneur.
Bonsoir. Bon,
vous êtes une femme?
A priori, oui.
On vous sent séductrice dans la voix. Ok.
Attendez-vous.
Est-ce que vous avez un look un peu sexy? Vous êtes connue pour ça, en tout cas. Ah, elle n'est pas un vieux tas.
Je suis pas un vieux tas.
Je vous dis, on a des jeunes tas qui sont pas sexy du tout. Hein,
non, mais dire, on peut dire que vous avez une carrière sexy.
Ah,
voilà. Ça commence à intéresser Pierre.
Ça intéresse Pierre.
C'est marrant, les Kotax, ils s'en foutaient un peu, mais là,
là ils se réveillent.
Est-ce que
vous
pensez...
Vous avez fait l'amour avec Justin Bieber récemment?
Ah, pas encore.
C'est bien, de
pas
si
encore.
C'est bien de lui demander si c'est une pute.
Brésilienne.
Pour commencer l'interview. Brésilienne.
Bon, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui suscite l'hilarité?
Ah bon, j'ai peur.
Non.
Pas vraiment.
Pas vrai. Ah non, vous n'êtes pas forcément une rigolote. En tout cas, c'est pas comme ça que vous êtes identifié.
Non.
Est-ce qu'il vous arrive de porter des baskets?
Presque tous les jours.
Ah oui, donc vous avez un look plutôt sportif.
On peut le dire.
Vous vous baladez en scooter dans Paris?
Jamais.
Est-ce que vous habitez à Paris?
Oui.
Depuis longtemps?
Toujours.
Depuis... Vous êtes né à Paris? Une vraie Parisienne.
Oui.
Vous aimez la nuit?
Oui.
Vous êtes mariée?
Non.
Vous avez des enfants?
Oui.
Salope.
Enfin, mais vous savez pas qui est.
Elle est folle.
Elle est folle, hein.
Excusez-nous, elle est atteinte du syndrome Jim de la Tourette.
Ouais, elle dit des gros mots comme
salope,
ça.
Salope. Voilà, excusez-la.
On sait pas qui est de l'autre côté de la vitre, quand même.
C'est sorti tout seul, on a senti que ça venait de loin, là.
Ah ouais, ouais.
Tu es mon idole absolue, quoi.
Bon, alors, excusez-la, est-ce que vous connaissiez déjà Christine Bravo?
Oui.
Ah, d'accord. Vous, donc
vous m'aimez.
Vous lui pardonnez, c'est gentil.
Vous m'aimez depuis combien de temps? Vous m'aimez?
Très bien.
Moi, grand-mère, jamais.
Et Pierre Bénichoux, vous le connaissez, Pierre Bénichoux?
Oui, aussi.
Toujours aimé Pierre Bénichoux.
Est-ce que vous êtes blonde?
Quoi? C'est pas une raison pour aimer Pierre Bénichoux, même les brunes.
Le mieux, c'est que je vous donne un premier indice musical. D'accord. Moi, je trouve que c'est un très bon premier indice. C'est très rare même qu'on donne un premier indice aussi facile.
Ah bon?
Ah oui.
Ah
vous êtes d'accord, invité?
Beaucoup trop facile,
dit-elle.
C'est Paul Newman, le film de Paul Newman.
Les arnaqueurs.
Oui, bien entendu.
On ne dit rien.
C'est Borsalino. Mais oui, c'est Borsalino.
Ah ben, de toute façon, on a le droit de rien dire. C'est à vous de chercher et de réfléchir.
Alors, vous travaillez dans les chapeaux?
Voilà.
Tu penses à qui?
Allez.
Est-ce que vous êtes très populaire? Tout le monde vous reconnaît dans la rue?
C'est très prétentieux de répondre à cette question.
Non, mais
il faut nous aider.
Non, mais il y a forcément... Quand vous êtes arrivé, on vous a demandé des autographes dans la rue ou à...
C'est
dommage.
Pierre Bénichoux, c'est Pierre qui propose Mireille Darc. Êtes-vous Mireille Darc?
Absolument pas.
Elle a deux enfants en plus.
Non, c'est pas la peine de dire absolument pas. Ou on l'est ou on l'est pas.
Un deuxième indice musical.
Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Oh, Angela, Angela.
Ah oui, il y a un double indice musical. Sont les deux ensemble qui comptent. On se retrouve après la pub. Réfléchissez bien.
Oh, Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois fois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Oh Angela, Angela, my home is your home.
Alors voilà, un joli point commun entre notre invité.
Alors, ça peut être David, le point commun ?
Non, non, c'est Yannick Noah et Vanessa Paradis.
Oui, mais est-ce que
vous avez compris pourquoi, invité d'honneur ?
C'est tordu, oui, c'est normal.
Ah oui, mais moi, je trouve que quand même, c'est aussi ce qui vous caractérise. Ah oui, mais vous allez voir, ils vont comprendre, ils sont forts.
Ce sont les interprètes hein, qui comptent, pas les chansons.
Ce sont les interprètes qui comptent.
Est-ce que vous pratiquez votre métier sur une scène de théâtre ou
maintenant,
ou
vous pouvez peut-être demander ce qu'elle fait, effectivement.
Oui, vous êtes une artiste, une chanteuse ?
Non.
Est-ce que vous êtes une comédienne ?
Oui.
Est-ce que vous avez fait uniquement de la comédie ou vous avez d'autres activités ?
D'autres activités.
Vous avez déjà écrit, vous avez écrit des livres également ?
Oui.
Mais on vous connaît quand même essentiellement comme actrice. Hein. Essayons de ne pas trop perdre. Essayons de ne perdre.
Surtout Laurent Ruquier.
Pourquoi vous dites ça ?
Est-ce que Laurent Ruquier vous a fait travailler ?
Non, mais ça peut venir.
Ah, on ne sait jamais.
Ah, oui,
on sait jamais. Non, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, pas seulement moi, le grand public vous connaît avant tout comme actrice.
Vous n'avez jamais été ma partenaire sur scène ?
Pas encore.
Est-ce que...
On aurait vite fait le tour. Hein.
Est-ce que vous... Catherine Arditi, Brigitte Fosset, Jean-Benguigui.
Voilà. Est-ce que vous avez été également comédienne pour la télévision ?
Oui.
Michel Larocque est proposé par Enora Malagré. Non, notre invité n'est pas Michel Larocque. Voici Michel Larocque, j'ai dit.
Michel Larocque.
Voici un indice de plus. Ça, c'est un bon indice aussi. Hein. Là, ça devrait quand même vous aider les uns et les autres.
Vous faites des téléfilms surtout ?
Non, pas surtout.
Est-ce qu'au théâtre, on a le plaisir de vous voir au théâtre aussi régulièrement ?
Oui.
De même.
Est-ce que vous avez déjà tourné dans une publicité à la télé ?
Ça, non.
Un autre indice.
Au pays de la gloriole, quand le panache et terouane faisaient par le mariole le long du chemin de croix qui menait à l'échafaud le monde des aristos. Et un bourbon pour le 16, car le soleil se levait beaucoup trop rouge au 14 juillet. La particule trahissait les ci-devants que l'on emprisonnait. La particule trahissait les ci-devants que l'on emprisonnait.
C'est Jean-Yann, évidemment, que vous aurez reconnu, hein. Qui vous donne un très bon indice supplémentaire.
Vous avez travaillé avec Jean-Yann ? Vous avez tourné avec Jean-Yann ?
Oui.
Est-ce que vous avez une particule ?
Pas du tout.
Vous êtes blonde ou brune ?
Blonde.
Blonde.
C'est toujours.
C'est une actrice.
Pardon ?
C'est une actrice. Elle,
les actrices, elles sont toutes blondes ?
Vous avez les yeux
elle
bleus.
Non, elles changent.
Oui.
Vous avez la bouche rouge, oui, oui.
J'ai la bouche rouge, oui.
C'est ça. Je
suis con. Non, pas du tout, pas du tout.
Oh là on là. Est con. Allez, un indice de plus, alors.
On est paumé.
Ça, c'est un bon indice, invité. Vous êtes d'accord ? Je peux pas les aider plus. Hein. Qu'est-ce que je... Non, mais je suis vraiment désolé
sur
parce que
l'échelle de Chaim.
Je ne sais plus quoi faire. Hein. Dans ces cas-là, j'ai qu'une solution parce qu'il faut quand même qu'on reçoive notre invité.
Bah oui, montre-nous la photo.
Non, non. C'est sa voix parce que tout à l'heure, elle dit je ne suis pas chanteuse. C'est vrai qu'elle n'est pas chanteuse, mais elle a chanté déjà.
Il y a mon chien qui fait du poids à mes pieds, du poids en plus à mon oreiller, et c'est bien.
Ça vous aide les uns ou les
mais
autres.
Mais pas du tout, mais c'est horrible.
Par contre, elle a une belle voix, ça c'est sûr.
Laurent,
Oui.
Oui, mais
c'est vrai, mais on entend votre voix quand même. Alors
la
ça,
voix
ça
me dit vaguement quelque
ah,
chose.
Ah, quand même.
Alors, si, la voix me dit quelque chose.
Oh là là, merde.
Et Vanessa Paradis, Yannick Noah, quel point commun ils ont que pourrait avoir aussi notre invité comme point commun.
Ils sont fait larguer.
Mais non.
Ils sont dans les classements des acteurs les plus populaires.
Non.
Vous marchez pieds nus.
Ah non.
Ah oui.
Ouais, c'est ça.
Vanessa Paradis, elle a chanté avec Jeanne Moreau.
Qu'est-ce qu'ils ont comme point
ils
commun?
Ils sont frisés.
À la liste, je ah, pourrais ajouter Stevie aussi.
Ils sont frisés.
Ils sont
gays.
Maria Pacôme.
Ils ont les dents du bonheur.
Bravo, Enora.
Alors, Vanessa Paradis.
Maria Pacôme.
Bah ouais.
Bah, alors.
Non, mais qui a d'autres
France. Ah non, France, vous êtes, qui a d'autres vous êtes française, on a dit. Hein.
Elle a les dents du bonheur.
William Lémergy.
Enfin, une actrice qui a les dents du bonheur. On est...
Attends, ouais,
je vais regarder.
Les dents du bonheur.
J'ai honte, je sais plus quoi
elles
faire.
Elles sont très écartées, les dents.
Est-ce qu'on peut poser...
Vous les mesurer.
Est-ce qu'on peut mettre...
centimètres aussi, tant qu'on y est.
Est-ce qu'on peut mettre un cigare?
Non,
quand même pas. Attends, mais qui...
Ah là là, elle doit être magnifique.
Les dents du bonheur, attends. Vous avez des taches de rousseur aussi, je sais pas, moi.
Vous êtes blonde, blonde.
Attends,
hein.
Une blonde alors, avec attendez. Des dents du bonheur.
Le mieux dans ces cas-là, c'est de reprendre les indices. Ouais, alors, ouais. Le premier indice... Je vais faire ça après la pub. Ouais. Après la pub.
Ah, oui, oui.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir... Qui se cache dans la loge d'honneur?
Ça, c'est la musique de Borsalino.
Elle porte un chapeau.
Elle jouait. Vous jouez dans Borsalino.
Oui.
Ah ça,
bon
c'est un premier indice.
Vache.
Le deuxième indice.
Oh.
Bon, les dents.
Les dents du bonheur. Et là, les dents du bonheur, notre invité.
Il n'y a pas 36.
Je sais qui c'est.
Troisième indice. C'est la musique de La Vérité si je mens 2.
Ah ben oui, alors c'est elle. Ah oui, c'est ça.
Elle a
c'est
joué ça. Dans le 2 et le 3.
C'est ça.
Mais c'est... Eh oui.
Ensuite...
Et elle a eu un mari célèbre, non?
De la gloriole quand le panache était roi.
Elle a tourné dans plusieurs films avec Jean-Yann. Elle a même écrit un livre sur Jean-Yann. Oui,
alors je crois savoir.
Notre invité d'honneur, c'est...
Nicole Calfan.
Nicole Calfan. Enfin.
Oh là là. Oh, désolé, Nicole.
Nicole Calfan qui est à l'affiche du Mur, une comédie romantique qui se joue actuellement au Petit Théâtre de Paris. C'est rue Blanche. Qu'est-ce qu'elle a pas les dents du
elle
bonheur.
Elle a des petites dents du bonheur, si, un petit peu.
Pas vraiment blonde, pas vraiment blonde.
Bah, moins que William Lémergy, mais quand même.
Tu passes un cure-dent, mais effectivement pas.
Je dis pas un cigare.
Pierre Bénichou, enfin.
Moi, je savais, mais je ne trouvais plus son nom.
C'est François Bayrou.
Je jure que c'est vrai.
Ah oui.
Quand on a passé le disque de Jean-Yann, j'ai su que c'était elle. Et puis voilà. Ce que
pourquoi
c'est.
Vous avez vécu avec Jean-Yann?
Sophie Garel n'est pas là, on peut le dire.
Oui. elle peut pas vous blairer.
Bien sûr.
Alors, elle a dit des avec trucs sur vous horribles.
Oui, mais il y a prescription depuis. Laurent était là.
Vous lui avez piqué ou c'est un truc comme ça, non?
C'est une belle histoire avec Laurent.
De toute façon, je peux pas la saquer.
Il y a Marion Gamme, Daniel Evenou et Sophie Garel.
Il y a surtout Garel et moi.
Ah oui, merde, j'avais oublié.
Les histoires.
Les histoires.
C'est des vieilles histoires.
Oui, j'ai piqué son mec.
Ah oui, elle a pas aimé.
Ah, pas du tout.
Ouais, c'est rare qu'on le prenne bien. Hein, c'est... Quoi que.
Ça peut arriver.
Quoi que.
Et ben là, il va en rencontrer un autre de mec, Nicole Calfan.
Oh,
oh, mais arrête, Christine.
Tu nous fais honte.
C'est pas possible. On désolé, plus... Nicole. Hein.
On peut plus
Nicole,
t'inviter, Christine.
J'aime bien.
Elle met trois plombes à sortir pour se faire insulter. Franchement,
je me sens pas du tout insultée. Alors.
Non, ah, bah, ça
ah
va.
Ouf.
Moi, non, Christine.
Ah, je suis rassuré. Hein. Dites donc. Le mur, faire le mur. Le mur, c'est, enfin, mur même, c'est le titre de la pièce que joue Nicole Calfan. Et là, justement, elle rencontre.
Avec Rufus.
Et voilà. Elle rencontre un nouvel homme, Rufus, son voisin, un militaire. Avec Rufus, c'est la première fois que vous jouiez.
Oui.
Vous êtes pianiste. Vous essayez.
Je massacre la lettre à Élie.
Vous essayez d'apprendre le piano.
Ouais.
Voilà. Et lui, il est emmerdé. C'est comme ça d'ailleurs que vous allez faire connaissance, puisqu'un mur vous sépare. Il est emmerdé par le bruit que vous faites.
Et
c'est une pièce qui fait rire.
C'est une pièce qui fait rire.
Et qui attendrit.
Mais les gens sortent avec les yeux embués de larmes quand même.
Parce qu'au départ, évidemment...
Une pièce sur la solitude.
Ils s'engueulent, ces deux êtres essolés qui sont chacun dans leur appartement. L'un qui veut écrire, l'autre qui veut apprendre à jouer du piano. Et ils vont finir par faire connaissance. Bon, ça va mal se passer au départ, comme souvent.
Oui, bien sûr, mais c'est un texte tellement sensible Et je dois souligner la mise en scène d'Anne Bourgeois, qui est une mise en scène un peu clownesque, intemporelle. La musique est très importante. On mime tous les portes. Enfin, on a travaillé 2 mois quand même pour cette pièce. Et on en est très fiers.
Ça s'appelle Mur. C'est au Petit Théâtre de Paris. Nicole Calfort reste avec nous jusqu'à 18h30. Mur, actuellement à l'affiche du Petit Théâtre de Paris. Nicole Calfant et Rufus dans cette pièce d'Amanda Sterz, une comédie romantique qui amuse, mais vous nous l'avez dit aussi, qui fait rire, puisque c'est une belle rencontre au fond entre deux êtres qui sont peut-être, qui pourraient finir leur vie seuls, et puis finalement le hasard va faire qu'ils
et
vont
puis,
se rencontrer.
C'est une belle rencontre sur scène, c'est important aussi que ce soit pour nous, pour le public, parce qu'on vient d'univers complètement différent. Rufus vient du cirque, il me dit toi tu viens de la comédie française et moi du cirque, et en fait voilà, ben on est connectés, donc il se fait qu'il y a une sorte de, je n'ai pas peur du mot, de grâce sur cette pièce entre nous.
Il y a plus que...
Il n'y a que ça.
Ah bon, non, parce que...
Il n'y a que
autant
ça.
Autant nous le dire aujourd'hui à ce micro, si
ouais,
vraiment...
Oui, parce qu'on va être dans le gala très vite, donc autant c'est... en parler tout de suite. Non. Il n'y a que ça et un grand respect. Voilà. Et c'est une pièce... c'est un rôle comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie, et pourtant j'ai... beaucoup joué au théâtre, mais je remercie Amanda Sterz.
J'en connais autour de la table qui aimerait bien être votre voisin, je crois.
C'est Pierre Bénichou.
Il a bien joué avec des mots aussi.
Parce que j'aime beaucoup Nicole Calfant.
Il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection.
Je vais. Et j'aime beaucoup les pièces d'Amanda Sterz. Je n'en ai vu qu'une d'ailleurs. Qui était
le juif blond. Il n'y en a pas écrit non plus 10 000.
C'est la 4e, je crois.
Et j'aime beaucoup. Et je vais, malgré son livre sur Johnny Hallyday, je vais aller voir sa pièce.
Alors, écoutez, c'est à 19h, un horaire pratique pour aller au théâtre.
Ah oui, tout à fait, t'as pas le temps de rentrer écrasé.
C'est
un horaire de merde.
Mais vous pouvez aller dîner après.
C'est un rêve de jouer.
C'est les Anglais, les Américains.
Justement, ça fait British, ça fait outsider. Et c'est branché.
Et tu manges après.
Justement, tu manges après.
Ça prend pas ta soirée. Mais si, c'est génial.
C'est génial. Moi, je veux. Et après, Laurent, on peut aller voir d'autres spectacles.
Et Nora Malagré, vous auriez pu reconnaître quand même,
oui,
Nicole
Calfant. Et je suis en train de tomber amoureuse de vous, je vous le dis très honnêtement. Ah. Je vous trouve magnifiquement belle, vous avez une voix incroyablement sensuelle, vous êtes une grande comédienne, je suis un peu impressionnée. Oh, voilà, de vous rencontrer.
Il y a Bénichou qui se dit qu'il est à la bonne place là.
Sauf que vous avez failli dire que j'étais Véronique Jeannot ou.
Pourquoi?
On l'a pas dit, hein.
Non.
Ça, c'est le con qui a posé la question sur la puce.
Je suis surpris quand vous avez dit en revanche que vous n'avez jamais fait de publicité, parce que j'imagine que au moins le savon luxe.
J'arrive pas à en faire.
Mais
elle aimerait bien
J'adorerais.
En faire. Mais Luxe Beauté, ils vous ont jamais appelé à l'époque de faire
Rien.
Luxe Beauté?
Essayons de faire un test. Essayez de dire à ma guise, on sait jamais.
C'est déjà pris.
Il reste un truc, c'est. Comment t'appelles cette comédienne géniale qui faisait le. Qui nettoyait une table.
Please.
Faire la femme de ménage, c'est Marie-Pierre Cazet.
Eh ben.
Moi, j'ai beaucoup
Donc, je suis plus chère parce que je n'en ai jamais faite.
Je ferais pas ça tous les jours, qu'elle disait.
Moi, j'ai beaucoup de grands souvenirs avec Nicole Calfort, parce qu'elle se souvient sans doute pas, mais elle m'avait collé un 18.
Ah bon?
Elle m'avait noté parce qu'elle a été jurée dans une émission de Jacques Martin, un concours d'animateur télé, et elle m'avait collé un 18. À l'époque, ça s'appelait Sous vos applaudissements.
Tu as fait un concours d'animateur télé.
Et oui, il y a longtemps, quand j'avais 19 ans,
on a rien sans rien, mon pote. Hein.
Voilà. Et depuis, phénoménal.
Eh bien, Nicole Calfort, nous ne vous remercions pas. À demain, 16h. Mur, c'est au Petit Théâtre de Paris à 19h. Rufus et Nicole Calfort.